Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute un podcast. 22h02 à Paris, minuit 2 à Doha. Bienvenue dans l'After Intégrale Coupe du Monde sur RMC en direct du studio RMC au Qatar. Casting du soir. Bonsoir Kevin Diaz.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Flo Gautreau.
Salut à tous amis du bémol, bonsoir.
Première apparition dans ce mondial 2022, Flo, nous t'accueillons avec grand plaisir.
J'ai hésité à boycotter, puis en fait finalement je me suis dit non.
C'est la première sélection en Coupe du Monde alors, cette année.
Exact.
Première sélection cette année, il y en a quelques-unes.
Quelques-unes derrière, mais c'est un retour, c'est un peu, je fais une Giroud.
Ouais.
On m'attendait pas.
Mais...
puis...
pour ta première grande soirée de foot, une grande soirée de la Coupe du Monde la plus folle depuis le début de ce mondial 2022. Je rappelle l'information principale, la Nationalmannschaft, l'Allemagne, est éliminée de la Coupe du Monde, troisième de ce groupe E, ne verra donc pas les huitièmes de finale comme en 2018. Je parle là du champion du monde 2014 à un an et demi de son euro qui sera donc organisé sur le sol allemand. Paulo Breitner arrive dans un instant. Fred Armel sera là également pour évoquer la qualification, mais la défaite de l'Espagne face au Japon. Nous irons au Japon aussi retrouver notre correspondant sur place à Tokyo qui nous dira la folie qui s'empare de la capitale nippone. Premier du groupe, les Japonais ont battu l'Allemagne, l'Espagne et filent donc en huitième de finale. Je donnerai les affiches dans quelques secondes. Sensation marocaine également, qualifiée pour les huitièmes. Première également de son groupe, le cauchemar belge au programme de l'After, éliminé dès les poules. Lukaku en pleurs, fin de génération sans titre. Et puis à partir de 23h, l'équipe de France bien sûr, avis tranché de Flo, groupe limité en quantité et qualité. L'équipe de France ne peut pas aller au bout. On parlera également de la défense, la charnière de l'équipe de France.
C'est osé ça comme avis, hein.
Konaté ou Varane à côté d'Upamecano, y a-t-il débat? Vous nous appelez au 32-16 pour y participer. Puis Kevin, tu penses qu'il ne faut surtout pas enterrer Benjamin Pavard? Le 32-16 pour nous appeler, le hashtag RMC Live sur Twitter. Et puis je vous rappelle que nous sommes en direct également sur la chaîne Twitch RMC Sport pour envoyer vos messages, pour poser vos questions à Flo et Kevin. C'est parti pour l'After. Et on commence les gars par les affiches. Nous les avons, les affiches. Je vous les livre, pas encore hein. Je rappelle qu'il y a encore 4 matchs demain. Ce soir, à l'issue des résultats de la soirée, donc, Maroc-Espagne, mardi à 16h. Croatie-Japon, lundi à 16h. Nous connaissions déjà Australie-Argentine, samedi à 20h. Pays-Bas-États-Unis, samedi à 16h. France-Pologne, dimanche à 16h. Sénégal-Angleterre, dimanche à 20h. D'abord, nous accueillons Polo. Bonsoir, Polo.
Bonsoir, mon cher Nico. Bonsoir, tout le monde.
Je vais t'accueillir avec ce message de Thomas Müller, Polo.
Au revoir.
Oui, oui. C'est pour lui, c'est pour lui.
C'est pour lui, pas pour toi. Bon, Polo, on a vécu une soirée dingue. Tu l'as vécu aussi devant ta télé. Je rappelle que l'Allemagne, tout de même, a battu le Costa Rica 4-2, mais ça n'a pas suffi. L'Allemagne est éliminée du mondial pour la deuxième fois consécutivement, Polo.
Ouais, alors il y a plusieurs façons de voir la rencontre, enfin de voir les résultats. C'est ne jamais faire confiance aux autres, hein. Donc ne jamais se mettre en position d'être éliminé à cause des autres. En l'occurrence, la défaite de l'Espagne face au Japon. Mais la deuxième chose, moi c'est pas ça qui m'intéresse vraiment, c'est il n'y a pas de structure dans cette équipe. Je veux juste vous poser une petite colle. Vous savez la dernière fois en Coupe du Monde que les Allemands n'ont pas pris un but en match, c'était quand?
Non.
Bah, c'était la finale 2014 contre l'Argentine en prolongation.
Ah, ils ont pris des buts à chaque match depuis la finale.
À chaque match, ils en prennent. Bon, moi, j'ai
pour l'instant, il n'y en a eu que 6, hein. Mais bon, quand même, t'as raison.
Ah non, il y en a 3. Il y en a
2014.
Bah oui, mais justement, ils s'en prennent à chaque fois un ou deux. Donc, ça devient compliqué. Là, c'est le Costa Rica, quand même. Donc, moi, je veux bien. Il n'y a pas de structure. Je ne sais pas quels sont les mots que va devoir trouver Hansi Flick pour expliquer cet échec. On peut bien sûr dire que l'Allemagne a dominé le Japon, mais quand tu as 20 minutes d'absence et que tu te prends deux buts, tu as le droit d'avoir des absences, mais tu n'es pas forcé de prendre deux buts à chaque fois, quoi. Donc ça fait beaucoup. Ils étaient inférieurs à l'Espagne dans cette rencontre. Il y avait un, Il y avait un espoir, encore une fois, si l'Espagne faisait le boulot. Ça n'a pas été le cas. C'était bien parti, parce qu'au bout de 10 minutes, les Espagnols et les Allemands étaient qualifiés. Mais quand tu vois la rencontre de ce soir, c'est presque une victoire du désespoir. C'est-à-dire qu'il y a... C'est trop fragile à tous les niveaux. Je sais pas si c'est un problème de joueurs, parce que tous les joueurs jouent dans des grands clubs européens, et ça se trouve, le Bayern cette année remportera la Ligue des Champions. Ça se trouve. Et on dira, bah, quel super joueur, etc. Non, est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est autre chose? Moi, je sais pas, c'est pas l'Allemagne.
Tu dis quoi, toi? Tu penses quoi?
Bah moi je pense surtout que l'Allemagne est en train d'être déclassée mondialement, tout simplement, et que les nouvelles générations de joueurs sont pas à la hauteur des anciens, quoi. Donc pour moi c'est l'Allemagne qui doit se regarder dans un miroir, et c'est les jeunes qui doivent se regarder par rapport aux anciens. C'est pas l'Allemagne qui se compare au Brésil, à la France aujourd'hui, à l'Angleterre, ce que tu veux. C'est-à-dire c'est ce football là, quand ouais. Tu vois, j'ai jamais connu moi une nation, notamment à l'Euro 2000, j'ai jamais eu autant connu une nation qui faisait de son football l'image de ce qu'elle est. J'ai jamais connu ça, même au Brésil ou partout, ce qu'on a appelé le bug de l'Euro 2000, etc., où tout le monde se posait la question, qu'est-ce que c'était que l'Allemagne au 21e siècle, etc., avec l'échec. Là, ça fait deux fois de suite, donc ça n'arrive pas normalement que l'Allemagne se fasse sortir deux fois de suite. Donc les autres pays ont évidemment le droit de progresser, c'est pas la question. Mais quand je vois la qualité des joueurs, et même si on peut dire qu'il y a plus de neuf, les latéraux sont moyens, tout ce qu'on veut, etc., j'ai du mal à expliquer beaucoup de choses, sauf à chercher dans le détail le fait que comment se fait-il quand Flick met Kimmich au poste d'arrière droit, oui, alors qu'il l'a jamais fait pendant deux ans.
Je peux trouver des choses comme ça. Polo, oui, est-ce que c'est pas
Flo, vas-y.
Ouais, je t'écoute et effectivement, je suis d'accord avec toi, mais je crois que t'as la solution dans ce que tu dis et tu n'évoques pas Flick précisément, parce que quand tu dis les joueurs, tu les as. Quand tu dis, tu parles d'une nouvelle génération, elle est là quand même. Füllkrug, il est là devant, il joue pas titulaire, mais ils ont les joueurs, tu l'as dit. Et tu as donné cette stat sur la défense qui était, tu sais, traditionnellement, même dans l'esprit des gens qui ont la culture du foot, c'est de la solidité avant tout. Et quand tu vois que, tu l'as dit, et nous, on va en parler d'ailleurs encore sur les latéraux, cette liste de défenseurs centraux, ces défenseurs centraux qui jouent latéral, eh ben, en Allemagne, c'est pareil. Süle, il commence arrière droit, puis finalement, il trouve la charnière Süle-Rüdiger. Puis Kimmich, qui joue milieu depuis des années, il le remet arrière droit. Puis moi, c'est pas ce à quoi j'étais habitué avec l'Allemagne.
C'est la même chose que l'Euro 2021. C'est-à-dire qu'en fait, tu commences une compétition, tu connais pas ton 11, ça se passe mal, et tu bricoles pour essayer de trouver quelque chose.
Pour moi, enfin, tu vois, là, pour le coup, alors, je suis pas pour incriminer toujours l'entraîneur par rapport à des joueurs qui parfois sont pas à la hauteur. Mais quand là, tu n'as pas, et je dirais un peu la même chose parfois pour Deschamps, on va en parler tout à l'heure, quand tu n'as pas la structure, quand tu n'as pas la logique, que tes joueurs ne la connaissent pas eux-mêmes, moi, j'ai pas envie d'incriminer. Et là, en première période, à un moment donné, avant que ça craque, chacun a fait son erreur défensive.
Exactement.
Süle, Kimmich un peu,
Rüdiger aussi. Ouais.
Et Rüdiger. Jamais on a vu ça. Et maintenant, voilà que Neuer relâche un ballon qui relâchait jamais. Il y a un truc, voilà. Et c'est quand même. Alors Neuer, c'est autre chose. Moi, je pense quand même que la structure et donc celle mise en place par un sélectionneur qui a la main sur ça n'était pas présente.
Il y a aussi un truc, Polo, hein, tu sais que je suis particulièrement aussi la sélection néerlandaise. Alors on me dit, ah ouais, les Néerlandais, ils ont pas une génération de... Mais en fait, aujourd'hui, avec le nivellement des valeurs, aujourd'hui, les Japonais, ils s'entraînent comme le Bayern, en fait, dans leur club. Même s'ils sont en première division allemande, qu'ils soient en première division japonaise ou en première division belge, peu importe. Aujourd'hui, tout le monde s'entraîne bien. Donc, quoi qu'il arrive, il y a un resserrement du niveau. Et à partir du moment où tu as des sélections, comme l'Allemagne, qui a par exemple des joueurs offensifs de grande classe, mais à qui il va manquer un peu de mental, comme tu dis. Tu vois, il va leur manquer le mental des anciens, parce que footballistiquement, ça reste des bons joueurs. À partir du moment où, défensivement, tu as Süle, Rüdiger, mais Süle, Rüdiger, c'est très très loin d'être une charnière comme ils avaient à l'époque. Donc je te parle même pas des latéraux où Kimmich doit revenir à un poste auquel, comme tu as dit, il a pas joué depuis deux ans. Donc en fait, le nivellement des valeurs plus le fait que certaines nations manquent d'individualité à des postes clés. Mais c'est ça en fait qui fait que pourquoi aujourd'hui le Brésil est favori. Le Brésil est favori parce qu'ils ont 22 joueurs. À chaque poste, ils ont deux à trois joueurs qui sont excellents, tu vois. Et l'Argentine.
J'en fais déjà le débat l'équipe de France tout à l'heure. Kevin,
mais surtout, ils ont surtout à l'endroit
de la profondeur du banc de touche.
Polo va nous le dire, mais surtout par rapport à ce que tu dis au Brésil, ils savent chacun à peu près au poste auquel ils vont jouer. C'est quand même un truc de fou de pas savoir quand tu commences une compète si tu vas quand t'es défenseur, si tu vas jouer arrière latéral, voire milieu ou défenseur central.
C'est clair.
Oui, ouais, mais je suis d'accord avec vous. Mais il y a deux choses. Bon, je suis d'accord avec avec Flo sur l'histoire de flic. Et je vais même plus loin. N'oublions pas que c'était l'assistant de Yogi Löw. Donc c'est peut-être la fin ou la mort entre guillemets d'un système, plus qu'un entraîneur, si tu veux, qui débarque et qui a pas mis les choses au point, parce qu'il a fait la même technique, notamment dans le choix de ses joueurs, c'est-à-dire qu'il voulait pas de joueurs à fort caractère comme Mats Hummels, donc il l'a éliminé alors que c'était à l'heure actuelle le meilleur défenseur allemand en Bundesliga. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que tu parles du nivellement. Ok, mais moi je vois aussi des Allemands qui ont encore ce soir quelque chose comme 28 ou 30 occasions.
Bien sûr.
C'est-à-dire que le Japon, moi je veux bien qu'on, moi j'adore le Japon, donc c'est pas une vraie surprise.
C'est pour ça qu'on parle du Bayern depuis tout à l'heure, mon cher Polo, quoi. Sauf que le Bayern gagne. Hein.
Sauf que le Bayern avait un avant-centre polonais et a maintenant un avant-centre sénégalais, par exemple.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a aussi 28 occasions ou 26, je sais plus, contre le Japon. Et ils marquent un seul but, et dès que c'est fragile, ils en prennent deux derrière. Donc je veux bien qu'il y ait un nivellement des valeurs.
C'est pour ça que je te parle de nivellement des valeurs et du fait que tu n'es pas l'individualité qui te fasse la différence au bon moment, au bon endroit, comme le Portugal avait un moment Cristiano, comme l'Argentine a pu avoir Messi, comme le Brésil a Neymar ou Vinicius, la France a bien sûr Kylian Mbappé.
Mais l'Allemagne a été quatre fois championne du monde, on ne parlait jamais de ses individualités. Pour moi, c'est autre chose.
Aujourd'hui, le football a changé. Le football, il a changé, Polo.
Ouais, mais l'Italie est championne d'Europe avec un collectif.
Avec un collectif, c'est pas.
Non, moi, je pense quand même que la structure allemande, elle est où?
Bah, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
C'est-à-dire que, en fait, c'est une équipe qui est portée depuis des années au nom d'une révolution footballistique qui, à mon avis, était nécessaire, mais on y a peut-être aussi des défauts, d'avoir produit un nombre de milieux de terrain incalculable, parce que là, il y en a d'autres qui arrivent en ce moment, mais on se rend compte que l'Allemagne ne produit plus certains joueurs qui seraient utiles dans le football moderne, comme un neuf, parce qu'il y a un grand débat en Allemagne, parce que quand Morata a marqué de la tête, on a aussi dit, les Espagnols, ils marquent avec un neuf, hein, quand, faut pas l'oublier, ça. Et en fait, en Allemagne, on a envie d'un retour du neuf. Mais au-delà de ça, moi, je trouve, encore une fois, mentalement, ces nouvelles générations allemandes extrêmement fragiles. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Ils remportent deux fois sur trois le championnat d'Europe Espoir. Et quand tu passes le cut des grandes compétitions, ils n'y arrivent pas ou ils n'y arrivent plus. Là, 2018-2022, avec un Euro 2021 raté, ça fait beaucoup à l'échelle de l'Allemagne.
Ça me semble un petit peu
compliqué à ce niveau-là, mais de savoir d'où ça vient, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que moi, encore une fois, il y a des petites phrases, moi j'aime toujours trouver ce... Quand 90% des gens sont d'accord pour un truc, moi j'aime bien trouver les 10%, les mecs qui sont pas d'accord, parce que c'est souvent ça qui m'intéresse.
C'est bien, oui.
Oui, non, mais c'est surtout souvent ça, la vérité. Et quand un Jürgen Klopp dit, mais j'ai même plus un mec en Allemagne qui est capable de mettre un coup de boule pour mettre justement un but de la tête. Ça, c'est la conséquence du football allemand, c'est-à-dire d'avoir des milieux de terrain qui sont super techniques, etc.
Mais des numéros 9, voilà.
Quand il n'y a plus de défenseurs centraux, parce que les anciens, ils le disent, hein, ils disent, mais c'est quoi ces défenseurs centraux? C'est des lapettes par rapport à nous. Ok, le foot a évolué, maintenant, dès qu'on fait une faute, on se prend un carton, faut faire attention, blabla, etc. Mais tout ça, c'est quand même important, mais encore une fois...
Tu parles de révolution culturelle, Polo, en fait, pour le football allemand.
Ben, je crois que le problème, c'est qu'on va continuer. Enfin, je sais pas si c'est un problème, parce qu'Hansi Flick, il a quand même ses résultats pour lui. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous voyez, depuis qu'Hansi Flick est arrivé, il y a eu sa période bénie où il perdait aucun match. Il a commencé à perdre un match contre la Hongrie. Ensuite, il y a eu le 3-3 en Angleterre. Il y a eu le match contre le Sultanat d'Oman qui a été pourri, le match préparatoire, le 1-0. Et puis, il y a cette Coupe du Monde ratée. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que lorsque ça commence à aller mal pour le football allemand, et c'était la même chose chez Yogi Löw post-Euro 2016, eh ben, il y a personne pour redresser la barre. Oui. C'est une période, ça va durer 6 mois, 1 an, et ensuite, tu vas voir, ça se trouve, après la Coupe du Monde, on va recommencer les matchs, ils vont patater tout le monde, et puis, à un moment, boum!
Après, Polo, est-ce que c'est une Coupe du Monde, tu me dis, hein, ce que t'en penses, toi qui les suis depuis très longtemps. Est-ce que c'est une Coupe du Monde ratée ou est-ce qu'ils ont raté une mi-temps face au Japon?
Ils ont raté 20 minutes contre le Japon. Mais je pense que les problèmes sont
parce
là.
Parce que pour le même prix, l'Espagne, ils sont éliminés, tu vois.
Mais je sais. Oui,
enfin, ils avaient aussi le droit de taper l'Espagne sur le match 2. Hein,
c'était un gros match, c'était équilibré.
Oui, bien sûr. Mais
ils étaient un peu en dessous aussi. Donc,
le problème, ils étaient en dessous de l'Espagne.
Je pense quand même que quand tu es en dessous de l'Espagne, attention sur l'analyse du Japon quand même, juste sur le premier match et sur le troisième, ils font la même erreur entre guillemets de pas être du tout impressionnant en première période. Première mi-temps, Allemagne-Japon, je me dis derrière 3-0. Et tu te dis bon bah c'est réglé, même tu peux pas imaginer ce qui va se passer.
Ça existe plus à 3-0.
Non mais oui, mais sauf qu'en première période, d'ailleurs il y a un but de Gundogan, je crois, qui a refusé, on croit que c'est le deuxième. Enfin bref, le Japon est revenu à chaque fois, a été capable de changer de visage très rapidement. Et ça d'ailleurs, il y a peu de sélections qui arrivent à changer de visage à ce point. Donc le Japon, ils n'ont pas joué eux que 20 minutes. Et ils ont un truc qui est quand même qu'aujourd'hui Japon et Corée ont montré une énergie, une intensité, et ils ont eu l'occasion de se préparer peut-être plus que d'autres d'ailleurs, y compris en termes de matchs amicaux, et que ça compte aussi dans des compètes comme celle-là.
Oui, mais regarde, l'Argentine,
excuse-moi.
Juste Nico, très rapidement, mais l'Argentine qui sera peut-être championne du monde, j'en sais rien, en tout cas qui refait partie des favoris parce qu'ils ont fait un très bon match hier, même s'ils ont joué contre une équipe fantôme, mais l'Argentine, pour le même prix, ils auraient pu aussi être éliminés, tu vois, donc ça veut dire qu'ils perdent aussi contre l'Arabie Saoudite, et derrière, ils sont juste pas avec l'Espagne.
Messi marque à la 63e minute lors du match 2, alors que l'Argentine n'a aucune solution. Bref.
On est d'accord.
Bruno est avec nous au 32-16. Salut Bruno.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Bruno.
Supporter
Bruno
de la National Mannschaft. Bienvenue dans l'After Intégrale Coupe du Monde, Bruno. Qu'as-tu pensé de ton équipe ce soir et dans ce mondial?
L'élimination est normale quand on ne respecte pas le foot. C'est normal de ne pas aller plus loin. Il y a des équipes qui ont plus respecté le football. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Le match contre le Japon, quand Polo dit oui, pendant 20 minutes ils ont pas joué et du coup ça a remis le Japon sur les rails, le problème c'est que pendant les 70 minutes en question, l'Allemagne a toujours eu l'habitude de tuer les matchs, et là c'est plus le cas. Et quand il y a plus de 9, je reviens sur cette question là effectivement, quand il y a plus de 9, on sait pas qui finit les actions. Aujourd'hui on a des super joueurs de 5, ça c'est sûr. Alors là il y a de la branlette footballistique entre Leroy Sané, Gnabry, même Musiala, c'est un super joueur individuel, mais il a fait plusieurs erreurs de foot pendant ce match-là, même contre le Costa Rica, où il dribble 3 mecs sur le côté gauche. Il y a 2 solutions, il y a 2 mecs seuls aux 18 mètres, seuls, il doit donner la balle. Les mecs sont en bonne position pour frapper, ils sont tranquilles, ils ont du temps pour frapper. Il fait quoi? Il dribble un mec de plus, il fait un passement de jambe pour aller faire une frappe dégueulasse, les contrer par 3 types.
Il a mis 2 poteaux aujourd'hui quand même.
Oui, mais les poteaux, c'est parce qu'il y a un grand gardien dans les buts au Costa Rica, et que quand tu sais que quand un gardien est très bon, et ben tu sais que tu dois mettre la balle dans les coins.
Les gars, voilà. Je suis désolé de relativiser, mais si le Japon il marque pas un but alors que le ballon il est sorti de 10 cm, l'Allemagne ils sont qualifiés, donc on peut aussi discuter toute la soirée, mais il y a aussi des faits qui font
Moussiala fait des mauvais choix, Kevin, mais bon, il a l'excuse d'avoir 19 ans aussi.
On est d'accord.
Évidemment qu'il va faire une bonne carrière.
Tu comptes pas en millième de seconde, t'es censé avoir 3 secondes d'avance sur tout le monde. Donc t'es censé. La question, c'est pas de savoir s'il y a un but qui est peut-être bon ou pas bon. C'est le fait que quand tu as 30 occasions, si t'as des vrais finisseurs et des mecs qui sont capables, comme Thomas Müller l'a été pendant des années, de lâcher son ballon pour aller faire un tapine ou de faire la passe intelligente pour démarquer un mec.
Mais c'est assez marrant ce que tu dis.
Regarder, se dire, il y en a un qui va mettre sa cape de Superman et puis sauver l'équipe. Juste jouer intelligemment et jouer ensemble. Ça a pas joué ensemble. Les mecs de devant, ils voulaient juste avoir leur ligne de stats.
Les gars, ils ont mis 5 buts quand même.
Oui, non, mais c'est marrant de voir que les joueurs sur le banc, Havertz et Füllkrug, à leur façon, ont été beaucoup plus efficaces que les titulaires. Parce que c'est vrai que Musiala a été énorme, incroyable dans sa capacité à éliminer dans tous les espaces. Mais c'est vrai que dans la finition, c'est un problème, y compris pour Müller. Est-ce que Müller, le titularisé Müller, ça c'est une question pour Polo. Étonnant avec, tu vois, on parlait de trucs générationnels dans certaines. C'est souvent des bascules générationnelles dans les coupes du monde. Tu t'aperçois que certains vont un peu au bout de l'histoire et qu'il faut déjà arriver à changer. Moi je dis que Deschamps était sauvé.
Eden Hazard, c'est le même.
Exactement.
Pour la Belgique.
Ah ben la Belgique est un archétype de la vieille équipe qui n'a pas eu la chance. Je vais aller plus loin. Martinez n'a pas eu la chance d'avoir les blessés qu'a eu Deschamps. Deschamps a dû changer, contraint. Sinon, c'était mon avis tranché de juin quand on ne savait pas encore, en disant les Pogba, les Griezmann et les autres, je me suis trompé sur Griezmann, seront peut-être en bout de course et ce sera compliqué. La Belgique n'a pas eu ça, c'est compliqué. L'Allemagne est une sorte d'intermédiaire entre anciens et nouveaux, et les nouveaux, il les fait entrer quand ça va pas, quand il faut faire la diff. Füllkrug rentre, il fait son job, il marque les buts. Il a pas été incroyable aujourd'hui, mais bon, il a marqué. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un souci. Et sur l'efficacité, je rejoins, c'est Bruno, hein, c'est ça. Oui. C'est vrai que t'as beau empiler, là aujourd'hui, tu mets Niabri, Sané qui semblait faire la gueule parce qu'on joue pas de son côté, et Moussiala qui fait des diffs incroyables dans la surface. J'aimerais pas jouer contre lui à l'Urban d'ailleurs au passage, mais devant le but, bah Havertz rentre et marque ses deux buts, Füllkrug.
Oui, mais Havertz, il a joué le premier match, Flo, et il était titulaire, et l'Allemagne a perdu contre le Japon. Donc encore une fois, je suis désolé d'y revenir, mais aujourd'hui ils mettent 5 buts, c'est pas aujourd'hui qu'ils sont éliminés. Ils sont éliminés sur 20 minutes contre le Japon.
L'Allemagne est éliminée ce soir parce que le Japon a battu l'Espagne aussi, messieurs.
Oui, parce que
l'Allemagne a perdu contre le Japon, certes.
Il y a pas que ça,
c'est complexe.
Non, mais depuis 2014, sur les 5 matchs les plus où il y a eu le plus d'occasions, l'Allemagne est en 1er, 3e et 4e place. Donc ça, c'est un football qu'ils ont développé, issu du Joachim Löw, enfin Klinsmann, puis ensuite du Joachim Löw, etc. Et à chaque fois, c'est soit match nul, soit des défaites. Bon. C'est-à-dire que...
Désolé, mais moi, en tant que
Le nombre d'occasions, et que ça se transforme pas en but, c'est un problème d'efficacité. Et bon, donc, la façon la plus simple de résoudre un problème d'efficacité, c'est d'avoir un grand buteur.
De former des neufs. Réaxer la politique sur la formation de grands neufs en Allemagne. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'un n'empêche pas l'autre, hein, Polo. Tu peux choisir de former plus de très bons milieux de terrain, que ce soit défensif, offensif, relayeur, mais également des numéros 9.
Tu as raison, mais regarde, l'histoire vaut en général sur cette histoire de 9. Se dire que tu peux... Je ne dis pas qu'il faut absolument en avoir, mais je dis que avoir l'idée incroyable que tu peux t'en passer complètement est hallucinant. Exactement. Je pense à l'Espagne qui encore là cette année s'en remet quelque part à Morata qu'ils ont conchié, qu'ils ont humilié, qu'ils ont... Oui, Morata est là. Giroud, conchié, humilié, écarté, repris. Donc, je dis pas que tu peux pas réussir sans. L'Espagne l'a montré à une époque. Oui, ponctuellement, tu peux y arriver à mettre des buts avec n'importe quel joueur de ton équipe. Mais dire à l'inverse, on n'a plus besoin de neuf dans un foot moderne, dans un nouveau foot, c'est une connerie.
Il y a une chose aussi que je voudrais dire.
Vas-y, fini, Polo, on conclut.
À l'Euro aussi. C'est le décalage qu'il y a entre le 11 que souhaite le public allemand et à chaque fois celui que nous met le sélectionneur en place. Et on peut critiquer le supporter allemand en disant c'est pas des connaisseurs, ils savent pas pourquoi ils disent ça, mais je trouve que ce qu'il donne comme équipe est beaucoup plus compacte, beaucoup plus sérieuse par rapport à ce que fait Hansi Flick. Ce soir Hansi Flick, pour moi, contre le Costa Rica, je dis c'était l'occasion d'essayer Füllkrug dès le départ. Le mec, il a 3 sélections, il vient du Diable Vauvert, hop, 3 sélections, il met 2 buts. Pourquoi tu lui donnes pas sa chance? Ça te donne une possibilité supplémentaire pour j'allais dire
une autre. C'est marrant.
Il ne le fait pas. Il reste finalement extrêmement conservateur. Il met juste Kimmich, encore une fois, le duo Kimmich-Goretzka. Peut-être que Goretzka n'est pas à 100%, mais Gundogan, qui est un mec qui passe toujours, qui a aujourd'hui 65 ou 66 sélections, mais qui, en fait, sur les 10-15 dernières années, n'a jamais été un titulaire indiscutable. Soit parce qu'il était blessé, soit parce qu'il y avait d'autres personnes comme Toni Kroos, Kedira et tout ça. Le mec, pareil, il ne joue pas toujours en sélection. Et d'un seul coup, on le remet titulaire dans un milieu à 3 qu'on n'a jamais vu, sauf contre l'Islande. Donc moi, je veux bien faire un coup contre l'Espagne pour densifier le milieu de terrain, mais il l'a jamais essayé depuis qu'Hansi Flick est Bundestrainer de la sélection allemande en 18 mois, juste une seule fois contre l'Islande en 2021. Et là, il le remet. Alors, à la rigueur, contre l'Espagne, je comprends, pour essayer de densifier le terrain, parce qu'on sait qu'ils vont pas avoir le ballon, etc. Mais pourquoi tu recommences contre le Costa Rica? C'est pas le même. On sait très bien quelle va être la rencontre. L'Allemagne va avoir 70-75% de possession. Et les costariciens, ils vont être à 7 derrière, quand c'est pas 11, quand c'est pas 10. Donc voilà, c'est des choses comme ça que j'arrive pas à comprendre. J'espère avoir des explications. Ce qui est sûr, c'est qu'Hansi Flick, il a un contrat jusqu'en 2024. Donc il sera normalement.
Je ne vois pas, d'accord, il va rester,
évidemment. Le problème, c'est avec qui? Parce que là, Manuel Neuer, je pense qu'il va se poser quelques questions. Thomas Müller, à force de le faire jouer neuf, alors que c'est pas sa place, ça devient compliqué. Hein, et puis voir d'autres joueurs. Mais voilà.
Thomas Müller qui avait d'ailleurs disparu de la sélection à un moment quand même.
Mais qui avait disparu, qui est revenu et qui joue pas à son poste.
Moi, je voulu comprends faire le ménage pas les anciens. Thomas Müller.
Il va pas nous faire une Podolski avec Müller.
Non, on verra ce qu'il va faire. Mais
de toute façon, Thomas Müller, il va pas aller à l'Euro. À l'Euro 2024 quand même.
On va parler de l'Espagne après, Nico.
On parle de l'Espagne avec Fred Hamel dans un instant. Polo, je vais te libérer.
Voilà.
Tu vois encore les dépendances dans ce mondial, je le rappelle. La Suisse
encore,
est encore là, mon cher.
Qui va se qualifier demain?
Qui va se qualifier demain? On en parlera également ce soir. Merci, Polo.
Salut, Polo.
Très bonne soirée à toi.
Salut, Polo.
À très vite dans l'After. Je vous rappelle également que pendant le mondial, grâce à RMC Foot Corner, vous allez pouvoir remporter des maillots des équipes nationales. Et ce soir, vous allez gagner le maillot de l'Allemagne. Voilà, ce n'est pas ironique, c'était prévu ainsi. Voici le message qu'il faut envoyer, foot au 732-16, foot au 732-16 pour gagner le maillot de la National Mannschaft, éliminé de la Coupe du Monde 2022 comme en 2018, dès la phase de poule. Dans un instant, Fred Hermel, l'Espagne est qualifiée, l'Espagne a serré les fesses. Alors beaucoup sur les réseaux disent que l'Espagne a tout fait pour être deuxième et éviter la partie de tableau la plus difficile selon eux, et notamment le Brésil ou l'Argentine. À tout de suite dans l'After Intégral Coupe du Monde sur RMC avec Flo Gautreau et Kevin Diaz. Vous écoutez RMC.
RMC After Foot Intégral Coupe du Monde. Intégral Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Florent Gautreau, avec Kevin Diaz, c'est l'After Intégral Coupe du Monde, minuit 31 à Doha, 22h31 à Paris. On a vécu une soirée dingue avec, je vous le rappelle, les qualifications du Japon et de l'Espagne pour les huitièmes de finale de ce mondial. Maroc-Espagne, donc mardi à 16h, on parlera des Marocains dans quelques minutes. Et Croatie-Japon, lundi à 16h. Je rappelle également les autres affiches. Australie-Argentine, samedi à 20h. Pays-Bas-États-Unis, samedi à 16h. France-Pologne, dimanche à 16h. Sénégal-Angleterre, dimanche à 20h. Bonsoir, Fred Hermel.
Hola, chicos.
Oh là là, c'était chaud, Fredo. L'Espagne, après 3 minutes ce soir, était éliminée. 3 minutes seulement, mais 3 minutes pour flipper. Alors, on va en parler avec toi dans un instant. Fred, ouais, on va d'abord faire un truc. On va aller à Tokyo, si tu le veux bien.
Ah bah oui, ah bah oui.
Parce que le Japon est la sensation pour l'instant de ce début de Coupe du Monde. Le Japon a battu l'Allemagne de Buzyn. Le Japon a battu l'Espagne de Buzyn. Dans la même configuration, dans le même récit narratif de match, hein, mené 1-0. Et à chaque fois, arrive à réinverser le score. Je vais tout de suite rejoindre Florent Dabadi, journaliste basé à Tokyo. Salut Florent.
Salut à tous, bonsoir.
Alors on a un petit délai avec toi, donc messieurs, je vous prie de ne pas couper Florent quand il parle, sinon ça va devenir cacophonique. Florent, raconte-nous déjà l'ambiance au pays, au Japon. Quelle heure il est chez toi déjà ?
Alors il est 6h du matin, ça a crié dans les chaumières sur les tatamis pendant toute la nuit. Je pense que les Japonais vont avoir une journée un petit peu endormie mais heureuse. Et c'était surtout un match extraordinaire tactiquement, mais je pense qu'on va en parler.
Mais tu peux en parler maintenant justement, hein, la victoire des Japonais, qui je le rappelle ont déjà joué des huitièmes de finale de Coupe du Monde. Hein. La dernière fois c'était en 2018. Contre la Belgique, il menait 2-0 contre la Belgique avant de s'incliner dans les dernières secondes de la rencontre, 3-2. La suite on la connaît, la Belgique est sortie en demi-finale par l'équipe de France. Huitième de finale également en 2010 en Afrique du Sud, huitième de finale en 2002, mais jamais de quart de finale pour le Japon qui affrontera donc la Croatie. Tu voulais parler d'un point tactique également, vas-y Flo, je t'écoute.
Oui, bah c'est surtout leur tactique de départ qu'ils avaient annoncé. C'était un 3-4-2-1 avec au milieu quatre milieux pour empêcher les petites combinaisons, les triangles espagnols. Donc à la limite, ils laissaient déborder les arrières espagnols. Ils se sont fait prendre à ce jeu-là sur le but de Morata. Mais ce qui était incroyable, c'est que tous les consultants, anciens joueurs, Nakamura, Shunsuke, Nakata, Hidetoshi, à la mi-temps sur la télé japonaise, disaient non, mais ça va, on est bien en place, on sait ce qu'on veut faire. Et en deuxième mi-temps, ils ont sorti toutes leurs cartes, comme contre l'Allemagne, dont Doan qui a été hallucinant dans les duels, dans la puissance, alors qu'on dit que les Japonais ne sont pas puissants. Et c'était incroyable la façon dont ils ont changé leur système. Donc bon, c'est bien sûr c'est un résultat et c'est plus facile de commenter ça maintenant dans la victoire, mais franchement, chapeau.
Chapeau aux Japonais, donc qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Florent, on te rappellera bien sûr, si tu le veux bien, dans les prochaines heures, prochains jours, pour parler de l'ambiance également, nous faire une revue de presse au Japon après cette qualification pour la sélection nationale. Merci Florent, à très vite dans l'After sur RMC.
Oui, bonne nuit à tous.
Kevin, tu voulais réagir avant que je lance Fredo ?
Non, mais j'allais dire sur le Japon. Alors bravo à eux, hein, parce qu'ils se sont qualifiés. Mais honnêtement, c'est autant j'avais bien aimé leur premier match, autant ils m'ont quand même vraiment déçu sur les deux derniers. Même si aujourd'hui ils battent l'Espagne parce qu'ils font 5 minutes de folie. Je pense quand même qu'ils vont avoir des difficultés, même contre la Croatie. Je pense que ça va être compliqué. Mais voilà, c'est un pays qui travaille bien, c'est un football qui progresse chaque année, qui est très sérieux. Gros salut à leurs supporters qui sont tout simplement exceptionnels pendant tout le match. D'ailleurs, les joueurs ont tenu.
Les Japonais en pleurs en tribune. Ouais,
magnifique, magnifique.
À l'égalisation et au but du 2-1. On va revenir d'ailleurs sur le but du 2-1.
Les joueurs le savent parce qu'ils ont tenu à aller les remercier très longuement.
On est dans une anomalie statistique, hein. Les gars, pour la première fois, une équipe avec 17,7% de possession dans un match de Coupe du Monde a gagné.
C'est ce point juste avant de donner la parole à Fred, mais je voulais arriver sur ça et sur le foot, sur quelqu'un qui écouterait l'after et qui se dirait tiens le foot c'est quoi ? Bah, le foot c'est un sport où tu peux effectivement l'emporter quand tu as 87% de possession contre toi, quand tu as j'avais d'autres stats 1000 passes contre 228, 1000 passes réussies contre 153, etc. etc.
Le dis pas trop fort Flo parce que quand je dis qu'il y a que le foot pour voir ce genre de résultats et procurer de telles émotions, Nico me dit oui, que c'est non, c'est le basket.
C'est pas forcément les émotions, c'est non, juste
c'est,
que
c'est quand même le sport non, qui est comme ça.
Le sport, bah, tout simplement, un sport comme je le dis souvent à points rares, ça n'existe pas.
Et qui
vraiment
se joue au pied aussi.
Et donc, quand t'as très peu de points ou possibilité de ne pas avoir de points marqués au tableau d'affichage, bah, ça donne ce genre de truc.
T'as le hockey sur gazon aussi, Flo.
Ah, je connais pas bien. Je suis désolé. je suis moins spécialiste.
C'est un sport à peu de points.
L'after hockey sur gazon, mais après, sur le Japon, ce qui est remarquable, moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette capacité, cette résilience, puisque c'est un mot à la mode, mais moi je trouve qu'il s'adapte parfaitement à cette équipe, qui n'a pas été très bonne par séquence. Et les deux entrées donc de Doan, là dans ce match-là, les deux entrées de la mi-temps sont vraiment déterminantes, puisqu'on parle souvent de coaching parfois, mais là ça a été vraiment déterminant, outre le fait que Doan marque. Et après, la petite différence, je retiens ce que dit Florent Abadie et je souligne aussi sur leur capacité à défendre. Le Costa Rica, quand ils mènent 2-1 contre l'Allemagne, ça dure tellement peu de temps parce que derrière, tu ne vois pas leur capacité à défendre cet avantage, ce résultat. Les Japonais, c'est l'inverse. Tu te dis à un moment donné, l'Espagne, qui en plus n'a pas appuyé à 100 000 à l'heure sur l'accélérateur.
Insupportable, hein, l'Espagne.
Qui élimine l'Allemagne, peut-être.
Insupportable, tu dis.
Mais voilà. C'est aussi une capacité un peu différente et d'abord physiquement d'être prêt et de défendre avec un peu plus d'impact. Je rappelle pour la Corée aussi qu'un gars comme Kim Min-jae derrière, qui s'est blessé malheureusement, de Napoli. C'est ça aussi, cette nouvelle génération de joueurs asiatiques.
Fred! Alors, je vais vers toi, enfin, tu patientes, merci. Comment commente-t-on cette fin de phase de poule pour l'Espagne? Luis Enrique est en tendance sur tous les réseaux sociaux. Victoire, défaite 2-1 face au Japon. Est-ce qu'on se dit aussi que peut-être on l'a un peu cherché ou presque fait exprès, comme beaucoup le sous-entendent?
Non, non, non et non. Voilà. Mais l'Espagne a été éliminée pendant 3 minutes quand même. Virtuellement éliminée. Mais à aucun moment, l'Espagne n'a essayé de terminer deuxième en pensant que jouer contre le Maroc serait moins dangereux que contre la Croatie. Je pense même que c'est plus dangereux. On y reviendra après.
Je suis d'accord avec toi, Fred.
Voilà. Et puis, vu les caractéristiques de l'Espagne, ça me semble beaucoup plus... La verticalité des Marocains me paraît beaucoup plus dangereux que la Croatie, même si la Croatie, qui elle pouvait priver priver l'Espagne de ballon, était un rival très compliqué. Mais on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, je suis désolé. Moi, avant ce mondial, j'avais mes doutes sur l'Espagne. Bon. Après 7-0 contre le Costa Rica, j'avais mes doutes en disant c'était un entraînement. Même Luis Enrique reconnaissait que ça avait été un petit peu trop facile. Après le match contre l'Allemagne, les dernières 20 minutes de l'Espagne avec les changements m'avaient inquiété. Et ce soir, l'Espagne a montré ses limites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de leader dans cette équipe. C'est-à-dire qu'à un moment où il a fallu serrer les fesses en se disant « Oh là là, on est en dehors du mondial », eh ben il n'y avait personne. Il n'y avait pas Sergio Ramos pour gueuler. Il y avait Luis Enrique. En plus, Morata, on va savoir s'il est sorti sur blessure ou pas. Il avait peut-être des petites gênes, parce que ça me paraît incroyable que Morata soit sorti. Mais le problème, c'est qu'avec un sélectionneur qui ne prend pas les meilleurs buteurs espagnols que sont Iago Aspas ou Borja Iglesias.
Tu lâches pas, Luis Enrique, hein. Tu lâches
pas. Non, mais à un moment il faut voir les choses. C'est-à-dire que quand il fallait marquer les buts, là, il y avait pas de numéro 9 parce que Morata est sorti a priori, on aura la confirmation sur un petit problème physique. Donc je suis désolé, mais cette Espagne, elle m'a refait penser à l'Espagne de fin de cycle dans un match de mondial contre la Russie, vous vous souvenez de ça? Avec une possession dingue et l'Espagne se fait éliminer.
Non, mais moi je suis d'accord. Hein, je suis d'accord que ce soir, je l'ai dit. Franchement, je regardais bien sûr forcément le dernier quart d'heure, les 20 dernières minutes avec les arrêts de jeu. Mais j'ai retrouvé cette Espagne que j'aime pas du tout. L'Espagne qui fait tourner pour faire tourner. Et tu vois, il y avait un truc. Et je sais que dans le football espagnol, qui s'inspire quand même un petit peu du football hollandais notamment, c'est pas ce qu'on demande. Il n'y avait aucun relais qui était sauté pendant au moins 5, 6, 7, 10 minutes. Ils jouaient à toi, A, A, B, C, D.
Ils essayaient de marquer, hein, parce qu'ils avaient peur. Hein.
Ouais, mais ils étaient toujours dans une espèce de sécurité aussi, avec un manque de verticalité. Alors oui, hein, les Japonais ont bien défendu en bloc très bas. C'est des joueurs qui sont très disciplinés, etc. Il y a eu deux, trois situations, notamment Dani Olmo, là, qui à un moment trouve un 1-2 et se précipite pour frapper du droit. Mmh. Mais voilà, il leur manque quand même quelque chose. Hein. Moi, je les mets pas dans les favoris pour.
Mais moi, c'est ce que je dis depuis le début. Je me suis fait insulter. Il n'y a aucun joueur espagnol.
Tu t'es fait insulter, Fredo?
Ah mais oui, bien sûr. Après le 7-0 sur les réseaux sociaux, sur
en Twitter, espagnol sur Insta. Ou en français?
Non, en français, en me disant ouais, tu critiques Luis Enrique. Alors t'as vu, il a mis 7-0. Oui, mais enfin, ça fait quand même 30 ans que je suis le foot espagnol. Vous prenez les espagnols. Il y en a aucun joueur n'est dans les trois meilleurs mondiaux à son poste. Donc collectivement, quand ça marche, c'est magnifique l'Espagne, parce que ce sont des joueurs qui techniquement régalent. On est tous d'accord là-dessus. Mais dès qu'il y a un petit problème, il n'y a pas l'élément différenciateur.
C'est vrai.
Il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Messi, il n'y a pas Mbappé.
Et dans la difficulté, il n'y a pas de réaction possible.
Et il n'y a pas de leader. Il n'y a pas un Ramos avec les Corones. Et ce soir, les critiques en Espagne sont terribles, en se disant. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que As et Marca font le même titre. Danke Avertz. Merci en allemand. Merci Avertz. Parce que l'Espagne s'est qualifiée parce que Avertz a marqué des buts pour l'Allemagne. Non mais sinon l'Espagne était dehors.
C'est vrai que c'était un moment d'éclaircie grâce à Avertz.
Au milieu de l'Avertz.
Oh, pas mal.
Vas-y, une pause, les gars. On va revenir également sur le deuxième but japonais dans ce match. Vas-y, Flo.
Il y a un mot sur cette Espagne, effectivement agaçante, pour reprendre ce que disait Kevin, sur ce côté équipe de handball. Qu'il a été d'autant plus que, alors je dis pas qu'ils ont fait exprès, qu'ils ont calculé, je dis juste qu'à la fin, sachant qu'ils étaient qualifiés, la première ou la deuxième place, je dis pas qu'ils préféraient le Maroc, mais que ça ne changeait pas grand chose, j'ai pas vu une équipe pousser non plus à fond pour aller marquer.
Pas forcément les moyens.
Peut-être. Après, effectivement, voilà, t'as pas les moyens et t'as cette absence de culture, par exemple, dans une fin de match où il la faudra peut-être, il faudra peut-être aller chercher ce but à fond, d'aller mettre dans la boîte quand t'as pas de neuf. T'es complètement impuissant, puisque si tu n'as pas ça et que tu fais tourner indéfiniment, t'as une fois une solution et peut-être zéro. Et tu retrouves aussi cette volonté de toujours passer par du jeu court et des relances dans le jeu du gardien, qui a pris des risques insensés. Et donc ces risques-là qui ont coûté d'ailleurs.
Déjà, le premier but, il est pour lui.
Il est pour lui. Et donc c'est très intéressant, parce que moi cette façon de jouer confine parfois à la prétention, tu vois.
Mais c'est ce qu'il y a eu, parce que le 1-0 il est vite arrivé et après ils se sont amusés. Et l'attitude d'Unai Simon, mais c'est pas normal. T'as pas le droit de jouer comme ça. Oui. T'as pas le droit de faire ça.
Parce Fred, tu restes avec respect. On fait une pause.
Unai Simon supérieur à Unai Simon.
Largement, il n'y a pas photo. On compare une légende de la musique américaine à un gardien moyen du football espagnol. Allez, on vient dans un instant avec Flo Gautreau, Fred Armel, Kevin Diaz. On va revenir bien sûr, les gars, sur ce but qu'on a vu au ralenti, le deuxième but japonais. Tout le monde pense que ce ballon est sorti entièrement des limites du terrain. Il y a des petites photos, des images arrêtées qui nous montrent que peut-être...
Débat très intéressant,
une partie du ballon, je parle de la circonférence du ballon, n'est pas sorti. On en parle dans un instant avec Flo, Fred et Kevin. Vous écoutez l'After Intégral Coupe du Monde sur RMC. Minuit 44 à Doha, 22h44 à Paris. Vous pouvez nous appeler également au 32-16 pour parler de l'Espagne. On parlera des Bleus aussi à partir de 23h avec l'avis tranché de Flo qui ne croit pas en un avenir glorieux de l'équipe de France dans ce mondial. A tout de suite sur RMC.
RMC. After Foot. Intégral Coupe du Monde. Intégral Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Flo Gautreau, avec Kevin Diaz, avec Fred Armel, je vous rappelle l'élimination de l'Allemagne dès la phase de poule de cette Coupe du Monde, battue 4e de son groupe. L'Espagne est qualifiée 2e derrière le Japon, qualifié également. Alors les gars, je veux qu'on revienne quand même sur une image qui va rester dans cette Coupe du Monde. Ce but, le deuxième japonais, que personne ne pouvait, ne voulait valider après le ralenti qu'on a tous vu sur notre écran. Alors je rappelle quand même les gars, et nous avons des images, je ne sais pas si elles vous ont échappé, si elles sont arrivées sur vos téléphones cellulaires, que c'est la circonférence du ballon qui fait foi. Il ne faut pas que le cuir, que le ballon, pour être très clair, touche la ligne pour estimer qu'il est totalement sorti ou qu'il n'est pas sorti des limites de jeu. C'est-à-dire que la partie haute du ballon, sur l'image que nous avons aussi également, je ne sais pas si vous l'avez, le ballon est encore pour quelques milliers de centimètres, quelques millimètres dans la surface du terrain.
Mais Nico, même si on n'avait pas la certitude que, comme tu le dis, un bout de la circonférence du ballon était au-dessus de la ligne, on est en plein dans le débat sur la VAR. À partir du moment où il n'y a pas la goal line sur la totalité de la ligne de front, ce qui est peut-être dommage d'ailleurs, et parce que pour moi c'est la seule technologie qui vaille. Je vous dis au passage que j'ai retweeté à l'instant un extrait d'une interview de l'Alsace, je crois, qui a interviewé Robert Wurtz. Oui, je vous dis juste de l'écouter sereinement, et vous avez à peu près tout. Ouais, mais c'est très intéressant.
C'est philosophique là.
Non, c'est que je vais t'expliquer pourquoi ce que tu dis. Vous avez vu sur les images l'angle. Non, c'est justement tout le problème et la problématique de la vidéo. Sur certaines images, tu auras l'impression, même avec ta règle de la circonférence, j'entends là, tu auras l'impression qu'elle est sortie ou parfois non. Donc l'interprétation de l'œil humain et la position des caméras fait que. Donc à partir de là, tu n'as aucune certitude qu'il soit absolument complètement sorti ou pas, sauf s'il y avait cette goal line technologie.
Donc tu ne peux pas revenir sur la décision initiale de l'arbitre.
Non, exactement, Fred. Donc absolument. On en revient même encore pire, parce que je reparle là de la VAR. La VAR ne sert, effectivement, elle sert dans quelques cas, mais ne sert souvent à rien, parce que de toute façon, à la fin, à la sensation, et même s'il y a une petite erreur, la sensation était de laisser l'action et le but, bah, c'est finalement la bonne décision,
oui,
puisque tu ne sais pas.
Avec ça.
On ne sait pas.
Non, mais de toute façon, tu te rappelles bien sûr, Fred, de ce but de l'Ajax Amsterdam en 8e à Bernabeu contre l'Ajax, où Mazraoui sauve le ballon. On a tous l'impression que le ballon est sorti, mais comme l'arbitre n'avait pas pu avoir la certitude selon les images que le ballon était sorti, il avait laissé but de Tadic et je crois que c'était d'ailleurs
et le Real éliminé.
Voilà, et le Real éliminé. Mais là,
c'est qui revient.
Ouais, c'est clair. Et donc à quoi ça joue des fois le retour d'un entraîneur
qui est champion qui remporte avec des champions. Exactement. Ça veut dire les gars qui. Ouais. Bon, je précise pour être très clair qu'il n'y avait pas d'image permise grâce à l'assistance vidéo qui permettait d'infirmer la décision initiale de l'arbitre.
Alors là, c'est bien, le doute
existe, on maintient la décision initiale de l'arbitre.
Sauf que ça, c'est là on est dans la bonne version de l'histoire ce soir, donc on se dit tant mieux, le doute a été utilisé à bon escient. Sauf que sur certains plans, tu pouvais les penser que même la circonférence totale, si tu veux, était sortie. Tu vois, pour Kevin, elle est sortie. Mais sur un plan, un des plans qui, parce que tu sais, certains plans sont diffusés, d'autres peut-être non. Donc, si l'arbitre avait estimé lui-même je pense qu'elle est sortie, il y aurait peut-être une décision comme ça inique. Donc, je veux te dire que t'en remettre forcément à des caméras qui, selon leur positionnement, je rappelle toujours ce vieil exemple du match Brésil-Norvège en 98, où c'est une autre caméra placée derrière un but qui a invalidé.
Te rendrait flou.
Et ben, ce truc-là, malgré le nombre de caméras aujourd'hui, il pourra toujours exister. Mais bon, sur l'esprit, en tout cas, dans l'esprit, ce que je remarque sur les trois phases importantes de ces derniers jours, le pénalty offert à Messi pour l'Argentine, le but refusé injustement à l'équipe de France et qui sera peut-être rendu, et cette action.
Refusé injustement.
Attends, j'y viendrai, mais.
Techniquement, il veut dire. Refusé techniquement.
Non, et même dans l'esprit, parce que pour moi, sur la première action, il l'a dit lui-même, d'ailleurs, très fair play, c'est pas grave, mais en fait, je jouais même pas l'action sur la première, il gêne ni la défense, ni le gardien. Le ballon revient sur une deuxième action. Sur le fond, ça devrait être accordé. Et sur la forme, l'arbitre n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Bon, ça, c'est autre chose. Mais sur ces trois points, on a toute la problématique de la VAR. Est-ce que les Tunisiens ont hurlé sur le but Griezmann? Non, ils ont baissé la tête en se disant il y a un partout. Est-ce que Messi a hurlé au pénalty? Non, ils pensaient qu'il n'y avait pas péno. Est-ce que là, les Espagnols ont hurlé en disant monsieur, elle est sortie? Non, ils n'ont pas hurlé, c'est le foot. Pendant 150 ans, on a accepté ces actions-là, avec peut-être la part d'erreur humaine qu'il pouvait y avoir. Et aujourd'hui, on passe 10 minutes à essayer de savoir.
On va pas faire le débat de la VAR ce soir, quoi.
Si
on peut parler du 8e déjà.
Oui, alors justement, on parle du 8e. J'accueille Rachid également qui veut parler de l'Espagne, Fredo. Salut Rachid.
Salut.
Bienvenue dans l'After Intégral Coupe du Monde. Toi, tu penses que l'Espagne ira pas loin dans ce mondial?
Alors, moi, je pense que l'Espagne n'ira pas loin dans ce mondial. Et c'est surtout que j'ai un gros problème en fait avec l'Espagne. Ils ont des joueurs de qualité. Et en fait, avec Luis Enrique, et je pense que c'est le principal problème de cette équipe, il veut reproduire un schéma de jeu qui aujourd'hui, et qui a prouvé ses limites. L'Espagne a en effet dominé pendant une époque. Aujourd'hui, c'est une époque révolue. Le jeu que propose Luis Enrique, que propose l'Espagne actuellement, il a d'énormes limites et ils peuvent dire merci. Je ne sais plus qui l'avait dit juste à l'heure en studio à l'Allemagne, parce qu'ils se qualifient avec pas beaucoup de choses, qu'ils n'ont pas proposé beaucoup de choses et ils se qualifient avec peu de points. Et franchement, je ne pense pas qu'ils iront beaucoup plus loin du duel. Je pense que contre le Maroc, ils vont avoir du mal.
Ah oui, moi aussi.
Et s'ils arrivent à passer le Maroc, alors je ne sais pas exactement qui ils joueront. Mais
Portugal et après la France.
Portugal et la France en demi-finale éventuellement.
Alors après ceux qui disent qu'ils ont choisi d'éviter le Brésil et l'Argentine.
Ah, il y en a beaucoup, hein, c'est une version que partage beaucoup.
Bah oui,
beaucoup,
bah excuse-moi,
t'évites le Brésil, l'Argentine, tu joues avec un jeu de récupération.
Tu tapes le Maroc,
en plus.
Tu tapes le Portugal et tu tapes la France. Enfin non, mais c'est n'importe quoi.
Franchement, c'est n'importe quoi ça aussi.
N'importe quoi. Je vais réagir.
Alors vas-y sur l'Espagne Maroc, mon cher Fredo.
Ouais, non, et ben justement parce que ce que dit Rachid. Alors il faut pas oublier une chose, c'est que Luis Enrique est celui qui au Barça avait fait évoluer le jeu. Alors c'est vrai que la philosophie de l'Espagne reste toujours la même, mais aujourd'hui l'Espagne n'a pas les joueurs de talent qu'elle avait à l'époque.
Et oui.
Donc déjà tu peux pas refaire la même chose. Voilà. Donc ça c'est clair. Et Luis Enrique, il est quand même pas contre un jeu un peu plus direct par moment. Mais sauf que c'est ce soir quand il met Nico Williams, c'est parce qu'il veut aussi un jeu direct à un moment. Sauf que Nico Williams, c'est pas un grand joueur, quoi. C'est tout. Enfin, c'est un problème générationnel. Il y a deux grands talents qui s'appellent Gavi et Pedri, mais qui sont encore des bébés talents. Mais pour le reste, ce sont des joueurs moyens. Donc collectivement, ça peut fonctionner, mais il y a pas de grandes stars. Pourquoi le Maroc c'est dangereux? Notamment avec un certain Achraf Hakimi qui connaît très très bien l'Espagne, puisqu'il est moitié espagnol.
Il y a une grosse communauté marocaine en Espagne, Fred.
Ouais, et puis Achraf Hakimi, il est de Montréal. Je crois même qu'il est né en Espagne. Oui, d'ailleurs, il est né en Espagne. Non, mais en fait, le gros problème de cette Espagne-là, c'est que on le savait depuis le début, c'est qu'en contre, elle pouvait être extrêmement fragile. C'est-à-dire que au moment de la perte de balle, s'il n'y a pas une récupération très rapide, cette Espagne peut souffrir. Et quand on voit le côté vertical des Marocains, et surtout, c'est l'énergie qu'a le Maroc et que ne semble pas avoir l'Espagne.
Mmh.
Et ça, je pense que ça va faire mal. Et en plus, je connais extrêmement bien l'Espagne, mais je connais bien le Maroc aussi. La rivalité entre les deux pays,
oui.
Elle est quand même énorme. Au Maroc, je vous raconte pas la motivation qu'il va y avoir, je dirais même nationaliste, des Marocains pour jouer ce match contre l'Espagne.
Après la Belgique, ils peuvent éliminer aussi l'Espagne. Ils auraient eu les Pays-Bas et ça aurait été le trio, je pense, il y a le plus de...
Puis après, la tendance, c'est le football, et Kevin, tu le sais mieux que nous tous ici, c'est un état d'esprit.
Bien
aujourd'hui, tu as un Maroc qui est gonflé à bloc, qui s'attendait peut-être pas à être là, qui est premier de son groupe, et à l'Espagne qui pensait être première de son groupe et qui perd contre le Japon et qui est éliminé pendant 3 minutes.
Ouais,
et donc, c'est-à-dire que ça va être long d'ici à mardi.
Mardi à 16h.
Beaucoup de temps pour se prendre la tête. Donc,
je t'annonce, Fredo, qu'il y aura une majorité de supporters marocains dans le stade. Nous, on les croise, ils sont extrêmement nombreux.
Et ça aussi.
Il y aura une ambiance marocaine dans ce stade mardi à 16h. Ils s'étaient joués d'ailleurs, hein, Maroc et Espagne en 2018, en phase de poule de partout, un score final d'ailleurs.
Ouais, avec en plus une erreur d'arbitrage à l'époque dont les Marocains se souviennent encore.
Fredo, merci, évidemment. Tu vas revenir régulièrement dans la.
Pendant un moment, j'ai pensé être en vacances de Noël.
Trois minutes seulement.
Pendant 3 minutes. J'étais
t'as
pas de dépendance, réserver,
toi. T'as pas de dépendance. Tu vois, Polo, quand il a été éliminé, il a une dépendance qu'elle a suivi.
En fait, si.
C'est qui ta dépendance?
Andorre.
Mais Andorre, de quoi tu me parles?
Non, mais je te dis Andorre, et puis Gibraltar, même pas, parce que Gibraltar,
c'est. Mais ils sont pas la Coupe du Monde, je te parle.
Non, j'ai pas de dépendance.
Non,
après, dépendance culturelle,
Lens,
j'en ai plein.
Quoi, c'est tout, quoi, voilà.
Des dépendances culturelles.
Concentre-toi sur le Racing Club de Lens, mon cher Fredo. Maintenant.
Ça, c'est clair. Non, mais après, l'Argentine, le Mexique, tout ça, ça parle espagnol, donc ça,
bien
c'est
aussi.
Toujours un petit.
Merci, Fredo.
Merci les amis, puis j'étais content de te parler parce que ça faisait longtemps. Hein.
Ça fait longtemps. Hein.
Ah mais nos rendez-vous du lundi soir me manque.
Du lundi soir, à l'antenne.
Ça revient le 2 janvier, non?
On parle à l'antenne. Non, parce qu'il y a une journée de Ligue 1 le 2 janvier. Allez.
Ah bon.
Fredo, on se revoit le 9 janvier exactement, mais on se parle d'ici là, hein, dans l'after.
Ah mais bien sûr.
Pour suivre le parcours de l'Espagne. Merci Rachid également, on appelle 32-16. À très vite sur RMC dans un instant, l'équipe de France avec Flo Gautreau, Kevin Diaz. Flo pense que cette équipe de France n'a pas la qualité, la quantité de joueurs pour espérer aller loin dans ce mondial. Venez en débattre avec nous au 32-16, vous écoutez RMC, il est minuit 58 à Doha, 22h58 à Paris. C'est l'after intégral Coupe du Monde avec Flo et Kevin. À tout de suite.
RMC After Foot
Intégrale Coupe du Monde.
RMC After Foot Intégrale Coupe du Monde.
Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
L'after intégrale Coupe du Monde sur RMC, 23h03 à Paris, 1h03 du matin ici en direct du studio à Doha, le studio d'RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde avec Flo Gautreau, Kevin Diaz. Messieurs, tiens, information qui vient de parvenir, que Polo vient de nous envoyer. Retraite internationale pour Thomas Müller. Les gars, voilà, 33 ans, tire sa révérence.
Voilà quelqu'un de raisonnable.
Au revoir.
Au Wiedersehen.
Mais attention, restons prudents avec ces dernières tournées, les gars.
C'est raisonnable, ouais, parce que Michel Sardou recommence. Hein, donc,
Aznavour en a fait trois hein, aussi dernière. Eddy Mitchell aussi.
C'est vrai.
Thomas Müller, donc, à 33 ans, se retire.
33 d'ailleurs, et je voyais plus. Tu vois, j'aurais donné 2 ans de plus.
Non, il est de 89, tu vois, Thomas Müller. Ça fait tellement longtemps. Au revoir, Thomas. Tu le tiens bien, Kevin, d'ailleurs.
Au revoir.
L'équipe de France dans un instant, les gars. Mais tiens, je veux quand même prendre 2 minutes pour vous donner votre sentiment sur ce mondial en termes de spectacle, d'intensité. Pas forcément de niveau, mais là, j'ai plein de messages d'auditeurs de l'After qui me disent, mais quelle soirée on vit sur RMC et dans ce mondial également. Hier, c'était magnifique également le dénouement du groupe de la Pologne, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique. Comment vous jugez le niveau de spectacularité, comme certains le disaient à l'époque?
Moi, franchement, je suis plutôt agréablement surpris, mais je suis plutôt satisfait par ce mondial pour l'instant. On savait que de toute façon les joueurs allaient être prêts, allaient être vraiment en bonne condition puisqu'ils sont en pleine saison. Alors malheureusement, il y a eu bien sûr certaines blessures de joueurs importants, Sadio Mané, etc. Mais le Sénégal a quand même réussi à se qualifier, donc on va dire que ça va. Mais voilà, après c'est toujours pareil. Bon, moi c'est ma façon de voir le foot, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que moi, je suis capable d'être pour ou d'apprécier une équipe comme le Japon quand je vois la ferveur de leurs supporters. Et moi, qui n'ai jamais été un grand supporter de l'Argentine, mais quand je vois ce que ça représente pour ce pays qui a des conditions compliquées en économique avec l'inflation monstrueuse, etc., et que je me dis que voilà, une victoire, une qualification, ça va donner encore une fois, le football, c'est bien plus qu'un sport, et ça va donner de la joie de vivre à toute une population quand je vois leurs supporters dans la tribune. Toi, tu m'as envoyé quelques vidéos, Nico, après le match ou pendant le match contre le Mexique. Mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. C'est le football qu'on aime. Je vois les Portugais qui sont satisfaits. Ils n'ont pas été flamboyants, mais ils sont qualifiés. Non, voilà, les Français,
c'était émotionnel dans les tribunes. Les joueurs qui chialent comme Lewandowski, comme Ronaldo, les supporters qui pleurent comme ce soir, les supporters japonais. Toi, Flo, ton regard sur ce début de mondial?
Non, c'est plutôt un très bon regard parce que tu prends globalement du plaisir. Je ne vais pas faire le rabat-joie. Mais après, je reviens sur ce que tu disais, toi. Sur le niveau, c'est peut-être pas une grande Coupe du Monde. Tu vois, je prends l'exemple de ce groupe E qu'on a vu ce soir. On l'analyse dans tous les sens et on finit par dire que le Japon a joué par intermittence tout en étant premier, que l'Espagne n'est pas, on vient d'en parler avec Fredo, très forte et qu'elle laisse un goût d'inachevé, et que l'Allemagne, on en a parlé longtemps, elle est éliminée. Le Costa Rica prend 11 buts en 2 matchs, et je remarque aussi que dans les grandes nations de la vieille Europe aussi, tu vois, ça s'étiole. C'est-à-dire les Pays-Bas, on les attend toujours fort et puis on est déçu. L'Espagne, on vient d'en parler. L'Allemagne, on vient d'en parler. L'Argentine, on l'a été un peu aussi. Le Portugal, quand même, on reste un peu. Et finalement, sur les 2 premiers matchs, la France a vraiment tenu son rang, d'ailleurs, à ce niveau-là, même contre des équipes inférieures. Et le Brésil tient son rang, je trouve, y compris dans les poules. Mais voilà, si on veut résumer, je dirais que c'est spectaculaire, y compris dans les tribunes, c'est agréable, et notamment par des équipes très préparées à ce foot d'aujourd'hui. J'en reviens au nivellement évoqué par Kevin, avec des équipes qui courent beaucoup, je pense au Japon et la Corée, qui ont vraiment, ou même au Maroc avec ce jeu vertical, donc ouais. qui ont compris un peu ce qu'il fallait faire pour essayer de passer. Donc ça donne de la spectacularité. Mais si on veut être, on fera le bilan plus tard, hein, mais exigeant et peut-être plus exigeant sur le niveau vraiment réel technique, il faut regarder les grandes nations, et les grandes nations, elles sont pas tout à fait toutes à la hauteur.
Même si, Flo, on a failli quand même retrouver toutes les grandes nations, au final, il manquera qui? manquera que l'Allemagne.
Mais ça c'est classique de ces histoires de poules, Kevin. Je dis la même chose en Ligue des Champions. Il y a toujours la petite surprise, mais en gros ça sert à malaxer pas grand chose. Et à 48 ce sera pareil. C'est-à-dire que là,
à 48 ce sera pire.
Oui, on fera des matchs et puis après à la fin tu récupères un peu tout le monde. Donc ça c'est le business. Mais après c'est pour ça qu'il faut regarder les matchs et le niveau. Sur les nations qui portent et qui ont souvent porté oui. le foot et dans les palmarès, on reste un peu sur sa fin. Peut-être pas sur le Brésil, qui a été à la hauteur, pas servi par ses adversaires d'ailleurs parfois, mais qui a su être à la hauteur et qui a ajouté la spectacularité à la France.
Qui a clairement la meilleure équipe, même sans Neymar, et la meilleure sélection.
Exactement, le meilleur groupe, c'est ça, Nico.
Bon, 2026, pour être très clair, pour ceux à qui ça aurait échappé, on aura effectivement 48 équipes, 16 groupes de 3 équipes, les deux premiers qui passeront en 16e de finale. Voilà, non, mais tu joueras le nombre de matchs en réalité.
Non, mais attention Nico, c'est pas pareil. Parce que là, à chaque match nul, il y aura des pénaltys en plus. Donc ce sera vraiment Disneyland.
Exactement, Disneyland du foot en 2026. Un autre Disneyland aux États-Unis, au Mexique et au
sport,
Canada.
Avec la VAR, avec des matchs, on attendra d'être dans le vestiaire pour savoir définitivement le résultat.
Ou dans le bus, t'as raison.
Et du coup,
garez-vous sur le bas-côté, les gars, sortez du bus.
Du coup, ce sera pas Disneyland, mais Disney World.
Bon. Disney World, tout à fait. Alors l'équipe de France, les gars, la France qui jouera donc la Pologne dimanche à 16h. On a écouté Kingsley Coman tout à l'heure dans l'Afterlife intégrale Coupe du Monde, qui parlait de Robert Lewandowski, qui est le danger numéro 1. Parlons de notre équipe de France surtout. Flo, tu veux développer un avis intitulé ainsi: les Bleus sont trop limités pour aller au bout. Jingle Flo Gautreau.
Renaud Lavillenie va sauter Nico Jamin à Lausanne. C'est un vieux souvenir.
Ah, il est vieux. Vas-y, Flo.
Oui, c'est pas très original parce que j'ai essayé de maintenir péniblement le fil que j'avais tendu avant la Coupe du Monde, parce que j'étais sceptique sur le niveau des Bleus, donc je vais essayer de pas changer d'avis et pas être une girouette. Même si en foot, faut être deux. Et après, faut voir qui est en face. Donc, c'est sûr que de se taper la Pologne en huitième, c'est pas un scénario incroyablement difficile pour la France. Donc, il y a toujours une possibilité de progresser. Et je pense que la France avait évidemment les qualités pour sortir du groupe. Ils ont les qualités pour passer les huitièmes, peut-être les quarts. C'est pour ça que je dis ne pas aller au bout, parce que les faiblesses qu'on a vues hier contre la Tunisie, c'est assez intéressant. Bien sûr, c'est une équipe B. C'est intéressant de voir ce que tu as derrière, ce que tu as dans le réservoir. Et on le savait, parce que même sur l'équipe type, on pensait être un peu limité au milieu de terrain. On l'est clairement au milieu de terrain, même avec nos titulaires. Et on l'est un peu partout avec nos remplaçants. Ça, c'est la réalité. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, on est une équipe type. Oui, peut-être, mais on a quand même derrière cela tous les choix de Deschamps dans la structure de la liste qui ressortent et qui vont ressortir comme des problèmes. Et là, on est sur ces sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, même pour l'équipe d'Allemagne, qui sont ceux de la défense. Qui joue en défense centrale? Est-ce que tu dois continuer même avec un Varane, ou est-ce que d'ores et déjà, je sais qu'on a ce débat-là, on doit changer et mettre Konaté? Est-ce que on peut se permettre de continuer en faisant jouer des joueurs qui ne sont pas latéraux au poste de latéral, etc., etc. On en revient à la structure de la liste, au fait que Jonathan Clauss n'est pas là, que Lucas Digne n'est pas là, que un 26e n'a pas été choisi à ce poste-là. Donc sur les Bleus, effectivement, je ne suis pas surpris des qualités qu'ils ont pu afficher contre des équipes inférieures, et je maintiens que leur groupe n'était pas un groupe très fort. Et je pense que pour aller au bout, il faudra être beaucoup plus fort que cela. Et à part la capacité du duo, on va dire, puisque moi, je reconnais que moi sur Griezmann, je suis très très surpris de son niveau et dans cette Coupe du Monde. À part sur ce duo-là, Griezmann-Mbappé, qui peut faire la diff, enfin, et notamment Mbappé, je pense que derrière, on a des faiblesses défensivement et au milieu. Je trouve que ça fait
tu
beaucoup.
Tu parles du duo Mbappé, attends, ouais. Je te coupe un des yeux dans ton avis. Mm-hmm. Tu parles du duo Mbappé-Griezmann, tu exclus Dembélé par exemple.
Non, non.
Fait des différences.
Non, Dembélé peut faire des différences, mais on verra dans les matchs décisifs que ceux qui vont apporter vraiment avec l'expérience et avec cette capacité à vraiment faire la diff, ce sera Mbappé. Et je crois pas que ce sera forcément Dembélé dans un quart, une demi, puisque j'en suis allé à parler de l'équipe qui va aller au bout. Après, moi, c'est surtout au milieu et derrière. Je veux dire, est-ce que tu peux décemment penser que tu vas au bout avec une équipe de France dont tu ne sais pas exactement aujourd'hui quelle est la meilleure charnière, on en revient au débat qu'on a eu sur l'Allemagne tout à l'heure, dont tu ne sais pas quel latéraux tu vas mettre parce que tu n'as pas choisi des latéraux dans ta liste, et dont tu n'es pas sûr du milieu de terrain qui est, à mon avis, la salle des machines et qui est quand même le nœud du problème de l'équipe de France. Donc c'est là on part maintenant dans les matchs à élimination directe. L'intérêt c'est de savoir en gros si tu es champion du monde en titre. Il y a des équipes, je l'ai dit tout à l'heure, qui en plus sont pas forcément très fortes en ce moment sur les grandes nations habituelles du foot. Donc il y a aussi une occasion, à part le Brésil. On peut dire qu'il y a une occasion. On peut pas dire que la France a à rougir face à l'Argentine. On pourrait pas dire que la France aurait à rougir face aux Pays-Bas. Donc pourquoi pas? Et malgré tout, je pense que de manière intrinsèque, la structure de cette liste et les interrogations qui pèsent sur la défense et le milieu me laissent penser que ça sera compliqué d'aller au bout.
Kevin, tu réagis à l'avis de Flo dans un instant. D'abord, j'accueille Nicolas au 32-16, supporter de l'équipe de France. Salut Nicolas.
Oui, salut. Bonsoir tout le monde.
Bienvenue dans l'After, salut, en direct de Doha, Nicolas.
Merci à tous. Hein.
Bon, écoutez, à quel niveau de confiance pour l'équipe de France pour aller au bout? Flo l'a dit, maintenant que tu es en 8e, tu penses à la victoire finale?
Ayant vu toutes les équipes jouer, je vois pas comment on pourrait ne pas la gagner. Maintenant, c'est tellement le football est tellement irrationnel que moi je nous vois favoris, je nous vois aller au bout, je vois personne nous inquiéter si tous nos joueurs sont au top, même peut-être sans latéraux comme vous le dites. Maintenant, ce qui m'inquiète moi, c'est le fait qu'on joue avec notre banc, en fait, parce que nos titulaires, nos 3-4 titulaires au milieu de terrain et en défense sont blessés. Donc du coup, on a été obligé de mettre le banc titulaire et qui fait une bonne performance en poule, c'est-à-dire Rabiot, Tchouaméni et Upamecano Konaté sur le premier match. Et c'était des joueurs qu'on ne voyait pas du tout titulaires il y a 6 mois en arrière, même voire il y a 1 an en arrière. Et même les latérales, hein, Théo Hernandez, à la base, on pensait que c'était Lucas Hernandez qui allait commencer. Devant Dembélé, c'est une surprise qu'il soit titulaire parce que il a pratiquement pas joué en Nations League et sur les derniers matchs de l'équipe de France. Parce que c'était souvent Benzema, Mbappé et Griezmann. Parce qu'on a, souvent joué avec ce trio-là. Aujourd'hui, Benzema n'est plus là. Griezmann peut enfin retrouver un poste un peu plus qui lui convient mieux.
Et on conforme à ses qualités, à son âge, tu as raison.
Ouais. Exactement. Et moi, pour moi, par exemple, le trio Mbappé, Benzema, Griezmann, je l'aurais bien vu avec un entraîneur un peu plus joueur comme Zidane. Je pense qu'il aurait réussi à les associer. Avec un entraîneur un peu plus craintif comme Deschamps, je ne pense pas qu'il se soit attardé sur ce trio-là. Donc, à un moment donné, c'est les plus forts, ceux qui ont, comment dire, qui ont une influence beaucoup plus forte sur le jeu, qui se sont imposés, et c'est des mangeurs de buts comme Mbappé, comme Benzema, et c'est eux qui ont pris la lumière sur eux.
Benzema, il est pas là, mais je vois où tu veux en venir, hein, dire que Zidane aurait peut-être fait un peu mieux jouer cette équipe et aurait pu inclure.
Oui, je dis ça, mais je m'en fous en vrai. Je veux dire, je suis pas en train de regretter Zidane, mais au contraire, je suis très content de ce que Deschamps fait et ce qu'il fait avec cette équipe, c'est fabuleux. Et je pense que faut pas être trop critique ni trop ambitieux.
T'es ambitieux puisque tu dis que tu vois personne peut battre l'équipe de France.
Mais parce que ça c'est la réalité. Sur ce que j'ai vu maintenant, on a fait 6 sur 6 avec le Brésil, les autres équipes, elles ont galéré.
En 2021, il y avait Benzema, il y avait Mbappé, il y avait Pogba, il y avait tous les joueurs quasiment qui étaient aptes à jouer. Est-ce que tu voyais l'équipe de France perdre contre la Suisse?
Mais exactement, c'est pour ça que je dis que le football il est irrationnel et qu'à un moment donné, on est obligé on peut pas deviner l'avenir, quoi. Donc
on devine pas l'avenir, Flo. Tout ce qu'il a dit, c'est que au vu des absents, comme toi tu as dit, au vu des seconds choix qu'on est obligé d'aligner, l'équipe de France, bien sûr qu'elle sera difficile à éliminer et qu'elle a toutes ses chances, mais de là à dire comme toi que tu ne vois personne, je pense qu'il y a quand même une équipe qui joue en jaune et qui a 5 étoiles sur le maillot. Je pense que celle-là peut-être éliminer la France. Mais bon, après.
J'ai vu le Brésil jouer. J'ai pas trouvé le Brésil plus flamboyant que nous. Hein. Franchement,
différence, pour rejoindre ce que dit Kevin, Nicolas, excuse-moi, je te coupe, c'est que le Brésil, quand il faut rentrer Anthony, Rodrigo, notamment à la 65e minute de jeu, sans perdre de niveau ou sans dégrader. L'apport offensif.
De toute façon, c'est simple. Concernant le Brésil. Tu verras l'équipe B du Brésil demain et tu vas voir que c'est une grosse différence avec l'équipe B de l'équipe de France.
C'est une grosse différence, ok, mais est-ce que c'est ce qui va faire qu'ils vont nous battre?
Moi, je suis pas devin. Je peux pas te dire ce qu'il va faire, qu'ils vont nous battre. Je sais même pas si on va les rencontrer dans le mondial. Tout ce que je te dis, c'est qu'à l'instant T, la meilleure équipe et celle qui non seulement a la meilleure équipe et en plus a les meilleurs remplaçants, c'est le Brésil. C'est tout ce que je peux te dire. Moi, c'est mon avis. Après, si tu penses que la France est au-dessus, bon, je sais pas.
Moi, je pense que le 11 de départ de la France est au-dessus. Après, je pense qu'on a 13-14 joueurs qui vont aller au bout si on n'a pas de blessés. Et ça sera comme ça jusqu'au bout. Je pense pas que Didier Deschamps va incorporer Veretout ou Guendouzi ou je dis eux et ou Fofana.
Mais après il reste 4 matchs avec la finale, donc bien sûr qu'il va pas les incorporer s'il n'a pas à les incorporer. Mais tu sais très bien comme moi que dans le football il y a des impondérables. Tu peux avoir un suspendu, tu peux avoir un blessé, tu peux avoir ceci, et c'est là que tu vas devoir incorporer des joueurs qui ne sont ni Ederson le numéro 2 du Brésil, qui ne sont ni Fabinho le numéro 6 remplaçant du Brésil, qui ne sont ni Rodrigo ni Paqueta ni etc. etc. Je ne vais pas tous les faire.
Ah, mais exactement. Mais moi, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que pour le moment, on n'a rien vu. J'ai pas vu une seule équipe m'éblouir. Même si le Brésil, ils ont 22 joueurs fabuleux qui seraient titulaires dans n'importe quel club au monde, n'importe quel grand club au monde. Pour le moment, le Brésil en a fait. J'ai pas vu. Voilà. J'ai par exemple, je disais, j'ai vu une vidéo avec. Le Brésil de 2002 avec Ronaldinho, Ronaldo, et je me suis dit, ah ouais, en fait, je comprends pourquoi le Brésil de 2022 ne m'impressionne pas. Parce que c'était ça le vrai football, c'était ça le vrai Brésil. Là, pour le moment, ce qu'on voit, excusez-moi, mais à part le but de Richarlison, qui est magnifique, mais dans le jeu, je vois pas des combinaisons, je vois pas ça pendant 90 minutes.
À mon avis, t'as pas vu le Brésil.
Oui, je les ai vus, mais pendant 20 minutes, 30 minutes, ils ont fait ça. À partir du moment où ils ont marqué le premier but, ils se sont lâchés.
Nicolas, je pense que le Brésil finit par épuiser l'adversaire à force de coups de butoir. C'est ce qu'on a vu sur les deux premiers matchs. C'est pas forcément encore très spectaculaire, mais ça finit par épuiser. Merci Nicolas. À très vite sur RMC. N'hésite pas à refaire le 32-16, les gars, dans un instant.
Juste pour faire rapidement, après on refera le débat sur les questions. Sur le Brésil, ce qui est intéressant, et peut-être qu'on se trompe, hein, ils iront peut-être pas au bout parce que c'est rarement le favori qui gagne, mais comme tu l'as dit, y compris défensivement, c'est une équipe qui fait le travail de manière très très au niveau de l'impact, tu vois, très très fort. Donc,
mais même l'Argentine que j'ai vue hier. Hein. C'est quand même pas mal du tout. Alors, c'est pas le Brésil, c'est pas la France, mais il va falloir les sortir
sur certains postes, effectivement.
Ils ont battu le Brésil en finale de la Copa América.
C'est vrai. Et c'est pour ça que je pense que les certitudes, notamment au milieu de terrain de certaines équipes, sont supérieures à celles du milieu de terrain de la France. Et n'oublions pas quand même, parce qu'on l'a presque oublié, parce qu'on a Mbappé, qu'on a ce fameux réservoir offensif, que l'absence de Benzema, qui est quand même le meilleur joueur de la saison.
Non, parce qu'il y a des supporters qui vont te répondre qu'on a gagné en 2018 sans Benzema.
C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis un fan de Giroud, tout le monde le sait, donc je suis ravi que Giroud puisse en servir.
C'est juste qu'en 2018, la moitié des joueurs de cette équipe avaient 4 ans et demi de moins. Donc déjà, ça change tout, avec ou sans Benzema.
C'est vrai.
Voilà,
Nicolas, je me suis arrêté parce que je savais que déjà, on était en débord.
Et peut-être que tu as oublié le fil de ta pensée aussi, peut-être.
Peut-être aussi, ouais. Mais bah, ça va revenir.
À tout à l'heure, les gars, vous restez avec moi dans quelques secondes. On va resserrer le débat sur la défense centrale de l'équipe de France. Varane n'a pas été bon. Il faut le reconnaître contre la Tunisie. Y a-t-il un doute? Y a-t-il un débat? Varane ou Konaté avec Upamecano? Venant débattre au 32-16 avec nous dans l'after intégral Coupe du Monde RMC. Il est 1h21 à Doha. Il est plutôt chez vous, les gars. 2h de moins, 23h21. Reste avec nous, on revient dans quelques secondes, à tout de suite.
RMC, After Foot, Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Flo Gautreau, en direct de Doha, 1h26 au Qatar, 23h26 à Paris, messieurs. On va prolonger sur l'équipe de France. Hein. Qui avec Upamecano, y a-t-il un doute, un débat? Varane ou Konaté? Varane n'a pas été bon face à la Tunisie. Tiens, quelques infos à vous donner rapidement concernant Neymar, qui est le seul joueur de la Seleção à ne pas avoir quitté l'hôtel aujourd'hui. Il est en plein travail de récupération dans le Westin Hotel de Doha. Peut-être que ça l'arrange, hein. Peut-être que ça participe à la récupération de Neymar. Lui ne s'est toujours pas entraîné, bien sûr, on le sait. On ne sait pas quand il viendra. Alors au Brésil, on dit que ce ne sera pas avant une éventuelle demi-finale. On verra ça dans les prochains jours. Je vous dis également qu'Hansi Flick reste bien sélectionneur de la Nationalmannschaft malgré l'élimination. Et puis tout à l'heure, on parlait de la Belgique également. On avait beaucoup de larmes, notamment celle de Romelu Lukaku, qui a vécu un cauchemar, qui a eu 4, voire 5 grosses occasions. Et
c'est quand même
pas marqué.
C'est révélateur un peu. On en parlait avec Kevin là, hors antenne. Et moi, j'aurais vraiment beaucoup les 9. J'aime beaucoup ce genre de joueur. C'est très, très dur, mais pas très étonnant par rapport à ce qui lui arrive depuis un an. Je pense que dans son prime, il y a, je sais pas, un an et demi, il aurait mis l'une de ses occasions.
Son prime à l'Inter, exactement.
Ouais, et je pense que là, il a perdu un truc que tous les attaquants connaissent, c'est la confiance. Il n'a pas le bon body language, il ne sent pas l'erreur sur de Lovren, enfin il n'anticipe pas une erreur éventuelle. Quand tu es derrière, gardien, défenseur, si là-bas le centre n'est pas bon, tu ne peux que espérer une erreur d'un défenseur ou d'un gardien, et ça n'importe quel attaquant le fait, n'importe quel attaquant tacle avant le centre sur certains tirs, etc., etc. Il n'a pas ces gestes-là. Il avait presque raté ses occasions avant de les mettre. Il se mettait une énorme pression, notamment cette balle de la tête. C'est vrai que c'est Lukaku. Je pense que c'est terrible. J'ai entendu Eric Dimeco qui a dit la phrase juste. Je pense qu'il va pas dormir. Il va très, 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 très mal dormir. C'est très dur. Mais en revanche, sur le global de cette équipe-là, c'est, on le disait tout à l'heure, le destin annoncé d'une équipe vieillissante. C'est De Bruyne lui-même, qui l'a dit dans cette Coupe du Monde.
C'est un crépuscule pour cette sélection.
De toute façon, les Belges, ils sont assez francs en général.
On en parlait tout à l'heure avec. Ils ont des problèmes aussi de relationnel au sein de l'équipe. Hein,
et bon, ça a toujours été ça. Hein. Entre les Wallons, les Flamands,
entre
les vieux, les jeunes.
Les défenseurs et les attaquants, là, c'était clair.
C'est n'importe quoi. Puis l'histoire de Bruyne Courtois, ces deux hommes qui ne se parlent pas depuis maintenant 2014. Voilà, on sera avec un confrère. D'ailleurs, une histoire savoureuse également, bon, qui a été démentie aujourd'hui au sein de la sélection serbe. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, non. Entre Dusan Vlahovic notamment et Rajkovic, et la compagne de Rajkovic. Voilà, vous avez compris. Je voulais en venir dans ce triangle présumé amoureux. Messieurs, je voulais dire également que Roberto Martinez va quitter la sélection.
Deux aussi. Hommes, une femme, trois possibilités.
Non, je ne l'ai pas
vu. Ou je ne sais plus, c'est un homme, deux femmes, trois possibilités.
Trois hommes, un couffin. J'ai vu.
Ouais.
J'ai vu le cœur
des hommes.
Quatre mariages et un enterrement, c'est ça. 9 semaines et demie aussi.
3-0.
Bon, les gars, Roberto Martinez a annoncé qu'il quittait la sélection belge. Il était en fin de contrat. Il est aussi DTN. On en parlera tout à l'heure avec notre confrère journaliste belge qui sera avec nous dans quelques minutes. Je vous rappelle également qu'RMC et Foot Corner vous font gagner des maillots de sélection nationale de cette Coupe du Monde. Et ce soir, un maillot collector. Il faut envoyer foot au 32-16. Foot au 7-32-16 pour gagner le maillot de la Nationalmannschaft. C'est pas une blague. C'est très simple. Foot au 7-32-16.
Ça reste un maillot mythique, hein, éliminé ou pas. T'as raison. Hein.
Gagnez votre maillot sur RMC avec footcorner.com. Les maillots de vos équipes favorites et toutes les plus grandes marques de sport sont sur footcorner.com.
Avant la compétition, Nico, j'avais le choix entre le maillot de l'Allemagne et le maillot du Japon. J'avais choisi le maillot du Japon. Je dis ça, je dis rien.
Tu dis ça, tu dis rien. Bon, bah écoute, on verra. On parlera des Japonais, hein. Jusqu'où peuvent-ils aller?
Tu penses qu'ils vont taper la Croissy?
Je sais pas. Moi,
c'est assez ouvert, je trouve.
J'ai une telle acquaintance avec Luka Modric que je ne peux pas parier contre la Croatie.
Hiroki Sakai a été interrogé. Réaction que nous envoie à l'instant Flo Germain. Éliminer la Croatie, Hiroki? Bien sûr que c'est possible. Nous venons de battre l'Espagne et l'Allemagne, ce qui est assez incroyable.
C'est sûr, voilà, c'est sûr que c'est possible.
Plus rien n'est impossible pour la sélection japonaise. L'équipe de France, les gars, je vous dis rapidement également qu'à partir de minuit, heure française, la Libre Antenne prend le relais comme tous les soirs depuis le début de ce mondial avec Nico Villas qui sera aux manettes. Alors, Varane, Konaté, y a-t-il un débat? On est d'accord, on part du principe que Upamecano, titulaire indiscutable en défense centrale, juste pour le dire très rapidement.
Oui, je pense qu'il va être titulaire, même si Konaté a été bon.
Alors justement, c'est le débat. Konaté ou Varane, y a-t-il un doute, y a-t-il un débat? Julien est avec nous au 32-16. Salut Julien.
Salut. Merci de me recevoir.
Mais on est heureux de t'accueillir ici à Doha en direct. Il est 1h31 du matin. Alors est-ce que tu as un avis sur la question? T'es plus Konaté ou Varane? Ce débat, on le fait aussi parce que Varane a montré des signes plutôt inquiétants face à la Tunisie hier, comme le reste de son équipe, cela dit.
Il y a deux raisonnements à avoir, moi, je pense. Aujourd'hui, en tant que sélectionneur, je me mets dans la tête de Didier Deschamps. Varane, c'est son pilier indéboulonnable en défense centrale. Bien évidemment, je pense qu'il va être titulaire aux côtés d'Upamecano. Moi, maintenant, mon avis perso, je trouve que Varane a été très limite contre la Tunisie. Il n'est pas tout à fait remis de sa blessure. Hein. On le sait, il a, Il a une blessure quand même assez grave avec Manchester United. Il a une préparation tronquée. Konaté, comme tu l'as dit, moi je pense il a montré de très belles choses face à l'Australie. Ils ont déjà joué ensemble à Leipzig avec Upamecano. Moi, à ma place, je mettrais le duo Konaté Upamecano, sans hésiter. Maintenant, on sait comment on va réfléchir Deschamps. En vrai, il n'y a pas débat aujourd'hui. Hein, on se met dans la tête du sélectionneur. On a déjà la charnière centrale qui va jouer, quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Tout à fait d'accord, parce que le bon débat, c'est toujours problématique. C'est qu'est-ce que doit faire, enfin, ferait Deschamps ou pas ? Ça, on le sait, en fait. C'est-à-dire que le débat, il n'existe pas sur ce que va faire Deschamps, qui va mettre Varane. Et après, on en revient après donc à ce que je disais de longue date sur cette charnière de l'équipe de France qui va de Loris, Varane, Pogba à l'époque, Griezmann, où je voyais moi un affaiblissement logique dû aux années qui passent. Je maintiens le raisonnement pour Varane et je pense qu'effectivement, vu la complémentarité et la complicité et l'antériorité, je crois que c'est une cinquantaine, soixantaine de matchs, même pour le Konaté avec Upamecano, notamment à Leipzig.
C'est quatre saisons à Leipzig ensemble, c'est ça, les gars.
Voilà, bon, je crois que j'ai vu des stats autour de 57 matchs. Oui, ce serait pas du tout déconnant de faire ça. Sauf que, comme d'habitude, Deschamps l'a fait quand il a été contraint de le faire pour laisser Varane au repos. Sinon, il le fera pas. Donc, il y a un débat qui est légitime. Techniquement, il est intéressant et je serais de l'avis de, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi.
Julien,
pour dire que je préférerais aussi aller sur une charnière plus rapide, plus jeune et complémentaire, qui est celle de Leipzig, pour faire simple. Mais si c'est pour savoir ce que va faire Deschamps, il va mettre Varane. L'équipe, on la connaît à peu près, donc il va mettre Varane
dans le canot.
Moi, je pense quand même qu'on a besoin de l'expérience de Raphaël Varane, même si Konaté a été bon. Et puis, de toute façon, il n'y a même pas vraiment de sujet, parce qu'au final, on sait tous que Didier Deschamps fera ce choix de titulariser Raphaël Varane, sauf problème physique. Et je pense que j'aurais fait le même que lui, parce que ça, c'est quand même un joueur qui a toujours répondu présent en équipe de France et qui est un des leaders de cette équipe, un leader de ce vestiaire. N'oublions pas que c'est important. Et donc, je pense que ce week-end, ce sera bien sûr Raphaël Varane qui jouera contre la Pologne.
Mais est-ce que, Kevin, c'est pas justement ce genre de raisonnement, comment dire, où il faut être parfois dans l'anticipation, dans le coup d'avant de la part d'un sélectionneur? C'est-à-dire que bien sûr que tu t'appuies.
Une charnière centrale, c'est quand même important, sachant qu'on a dit tous les problèmes qu'il y a au milieu de terrain. Il reste peu de monde de cette colonne vertébrale de 2018. Il reste quand même Hugo Lloris qui est performant en club. Varane, avant de se blesser, il était performant avec Manchester United. Et derrière, au milieu de terrain, on n'a personne.
Ah, si, il descend quand même.
Sur les dernières semaines avant sa blessure avec Martinez, ils avaient quand même redressé la barre dans cette défense.
Ouais, moi je vous trouve un petit peu dur quand même sur le milieu de terrain. Je vous écoute depuis tout à l'heure en disant contre des carences au milieu, etc. Moi, le milieu, sincèrement, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Je l'ai même plutôt trouvé bon, que ce soit face à l'Australie ou au Danemark.
Ouais, mais tu l'as dit.
Et on a un Rabiot qui s'affirme vraiment
T'as dit Australie-Danemark. Moi, le Danemark, on les a surcotés complètement par rapport au fait qu'ils avaient battu la France.
Ils ont raté leur Coupe du Monde.
Ouais, ils ont raté leur Coupe du Monde, mais quand tu regardes les matchs, justement,
l'année dernière, ils vont en demi-finale de l'Europe.
Oui, mais
il n'y a pas vraiment de règles aujourd'hui. On a bien vu. Il y a plein de favoris qui sortent, plein d'équipes grosses comme l'Allemagne.
Peu importe. Aujourd'hui, le titulaire de l'équipe de France au milieu de terrain, c'était censé être N'Golo Kanté. Malheureusement pour nous, il est blessé depuis très longtemps. Voilà. Ouais. Derrière, c'était pour jouer avec Paul Pogba, qui lui aussi a un problème physique. Et ensuite, il y a Adrien Rabiot. Donc, du coup, tu as quand même le deuxième et le troisième choix du milieu de terrain français. C'est tout. C'est pas très grave, mais c'est juste pas le premier choix.
C'est pas le premier choix, mais Rabiot, moi, quand j'ai quand même suivi des matchs avec la Juve cette année en Ligue des Champions, même si ils ont quand même été sortis ou en championnat, moi je trouve qu'il a fait quand même de très bonnes prestations et que là, même si c'est le Danemark ou l'Australie, le gars, il a montré de bonnes choses. Sincèrement.
Mais on n'a pas dit qu'il n'avait pas montré de bonnes choses, on a dit que ce n'était pas le premier choix.
Ce n'est pas le premier choix, mais c'est quand même un bon choix, je pense. Il ne faut pas être aussi pessimiste sur le milieu de terrain. Moi, je pense que même avec Griezmann en numéro 8, il y a eu des choses intéressantes et je pense qu'on peut être optimiste pour la suite. Moi, il faut pas les enterrer tout de suite. Même si on sait que contre la Pologne, ça devrait le faire. Et on s'inquiète un petit peu pour la suite de la compétition, mais il faut quand même regarder ce milieu à 3 qui a bien fonctionné avec des joueurs qui sont titulaires toute l'année en Ligue des Champions, hein, même si Tchouaméni n'est pas forcément titulaire avec le Real. Quand il a fait les rentrées, il a quand même montré de bonnes choses. Et ces mecs-là, ils ont l'habitude du haut niveau. Moi, je suis sincèrement très confiant. Là où je suis, il y aura un petit débat, je pense, en ce moment en équipe de France, c'est plutôt à droite. Quand on sort un Pavard qui a fait un mauvais match,
on va en parler.
Et qui a quand même répondu présent en équipe de France depuis 2018, un mauvais match, on sort. Et Koundé, moi, pour le voir jouer avec le Barça ou avec Séville l'année dernière, il ne m'inspire pas du tout confiance. C'est là, je pense, où aujourd'hui il y a plus un débat que la charnière centrale.
Tu vas être d'accord avec mon avis qui va venir juste après, Julien.
D'accord, ok. Bah, c'est bon alors.
Merci, Julien.
Avec grand plaisir.
Merci, Julien. À très vite, c'est sur RMC et dans l'After Intégral Coupe du Monde. Ton avis porte sur Benjamin Pavard, mon cher Kevin.
C'est ça.
Nous t'écoutons d'abord ton jingle. Et il n'y a pas. Jingle pour Kevin Diaz, c'est pas grave, tu vas dérouler. Je rappelle l'intitulé, il faut absolument sauver le soldat Pavard, il sera utile dans la suite de la compétition. Pourquoi, mon cher Kevin? Je rappelle que le sélectionneur Deschamps a dit qu'il a pris un entretien avec Benjamin Pavard, qu'il n'était pas dans les bonnes dispositions pour jouer contre la Tunisie. Pour la suite, on le verra. Ça semble plus être un problème mental que physique pour Benjamin Pavard. C'est Fabrice Hawkins qui nous rappelait que lui avait déjà expliqué qu'il préférait jouer dans l'axe dans l'absolu, mais qu'il était quand même prêt à rendre service sur un côté. Le joueur a été très touché par sa mauvaise performance contre l'Australie pour le match inaugural des Bleus dans ce mondial. Kevin, pourquoi faut-il absolument compter sur Benjamin Pavard?
Bah écoute, je pense que j'ai été formidablement lancé par Julien, qui, comme les auditeurs de l'After, sont souvent pertinents, parce que il en a parlé lui-même, hein, du fait que Jules Koundé à droite, ça peut être une solution de dépannage, mais ça ne reste qu'un dépannage. Et comme tous les dépannages, il peut y avoir quand même une petite fuite de temps en temps. Et donc, moi, je pense qu'un joueur comme Pavard, c'est sûrement pas le meilleur latéral droit du monde, mais en tout cas, c'est un joueur sur qui tu vas devoir t'appuyer en cas de problème avec Koundé, ou même s'il ne répond pas complètement, ou qu'il ne donne pas satisfaction complètement. Donc voilà, moi je trouve que c'est un joueur pour qui Didier Deschamps a toujours eu beaucoup de confiance et qu'il a toujours fait jouer quasiment à chaque fois qu'il a pu, en tout cas. Ça a pu être central, ça a pu être central à 3, ça a pu être arrière latéral, ça a pu être piston. Donc bref, aujourd'hui, je pense qu'il faut pas brûler ce que tu as aimé. Je sais pas quelle est la situation personnelle de Benjamin Pavard au sein du groupe, ou je connais pas son niveau de confiance, mais je pense que on peut en avoir besoin. On a déjà très très peu de choix en ce qui concerne les joueurs de couloir. On va pas revenir sur cette constitution de liste ubuesque avec un nombre de défenseurs centraux invraisemblable et par contre très très peu de latéraux, alors qu'on avait quand même des latéraux qui jouaient dans de grands clubs. Je vais pas y revenir, mais voilà. Donc je pense vraiment que on peut avoir besoin de Benjamin Pavard. Encore une fois, c'est peut-être pas le meilleur latéral droit, mais c'est quelqu'un qui essaye toujours de faire son travail assez consciencieusement, qui joue quand même au FC Bayern, et ça, c'est pas rien.
Mais pas forcément latéral droit.
Et si, au FC Bayern, il a joué 14 matchs cette année, latéral droit.
Oui, mais lui...
Une dizaine en défense centrale.
Et c'est le destin de Pavard depuis le départ que d'être en défense centrale. C'est l'idée aussi générale qu'il est maintenant meilleur en défense centrale.
Ouais, il a toujours été défenseur central, à la base.
On en revient donc, effectivement, c'est pour ça que je ne vais pas incriminer Pavard. Je l'ai souvent critiqué très fort en équipe de France récemment, en pensant que ça ne le ferait pas. Et on se retrouve en début de Coupe du Monde avec un débat qu'on a encore ce soir d'ailleurs, et que Deschamps maintenant a lui-même instauré, puisqu'il a d'ailleurs dans sa nouvelle méthode de communication cette année un peu différente, où il dit un peu plus de choses quelque part en conférence de presse. Il a un petit peu exposé en plus Pavard là pour le coup.
C'est ça.
C'est là il a
et c'est pas anodin, Flo, je pense.
Non, c'est pas anodin.
Deschamps qui dit pas grand chose en général sur les joueurs, surtout en pleine compétition.
Oui, t'as remarqué, Nico, depuis qu'il est un peu plus en danger, il a lâché avant la Coupe du Monde son système. Jamais il avait fait ça. Il dit plus de choses. Je pense que c'est une façon de se protéger, y compris par rapport à son groupe, parce que des joueurs ont dû critiquer Pavard, ont dû faire sentir vraiment qu'ils n'avaient pas confiance.
Ah, mais Dembélé a manifesté notamment pendant le match, plusieurs
donc,
fois.
Donc, si tu veux, c'est investir à ce niveau-là, c'est la guerre. C'est la guerre entre certains joueurs. Je dis la guerre, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'entendent pas, mais c'est la guerre pour ta place. Deschamps, il fait des choix en ce moment. Pavard, ça doit être très dur à encaisser. de voir les choix même que peut faire Deschamps. Donc on en revient au choix qu'a fait Deschamps, que moi je ne comprends pas effectivement sur ce manque de latéraux. Donc une fois que tu n'as pas les bonnes personnes, tu risques de cramer ton Camavinga que t'as mis là hier arrière gauche pour ses premiers pas en Coupe du Monde. Tu risques de cramer Koundé comme tu l'avais déjà fait avant, déjà quand tu le mettais latéral droit. Tu peux cramer Dizazi puisque alors là tu une grande nouveauté en latéral droit, etc. Et donc tu crames Pavard qui ne joue pas son meilleur poste. Qui sait qu'il est critiqué et sur la sellette parfois, qui maintenant en interne l'est aussi et qui est exposé en conférence de presse. Ça fait partie des interrogations globales sur la défense que j'évoquais tout à l'heure. C'est en ça que je dis, tu vois, que ça paraît moins clair puisqu'on parlait du Brésil où chacun sait qui il est et qui il a derrière en numéro 2, etc. C'est ça qui est en danger. Et Deschamps, mais qui navigue bien hein, globalement avec ce genre de choses, il a choisi de communiquer comme ça. C'est effectivement, comme tu le dis, pas un hasard.
Une transparence inédite pour Deschamps. Les gars, dans un instant, on va parler de la Belgique éliminée de ce mondial. C'est l'autre grande Europe éliminée après avec l'Allemagne. Et le Maroc également, rendez-vous des huitièmes de finale. Non seulement rendez-vous des huitièmes, mais aussi premier de son groupe pour affronter l'Espagne mardi à 16h. Reste avec nous. L'After Intégrale Coupe du Monde sur RMC. À tout de suite.
RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Avec Flo Gaustre, avec Kevin Diaz, c'est l'After intégrale Coupe du Monde sur RMC. 1h45 ici à Doha au Qatar, 23h45 en studio à Paris pour Flo et Kevin et pour vous qui nous écoutez, beaucoup de messages. Je rappelle qu'on est également, les gars, et on vous voit hein, sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. Vous êtes nombreux à nous regarder en direct de Doha. Il y a même un plan de coupe sur le studio RMC à Paris, sur Flo et... Flo qui a mis une écharpe, d'ailleurs je le vois, écharpe blanche, je passe jamais sur son écharpe.
Ouais, tout à fait. Un chèche.
Un chèche au mois de décembre à Paris, c'est normal. On voit des chèches nous aussi ici, hein, malgré la chaleur, tu vois. Bon.
Mais il fait pas très chaud en fait, si.
Ah, il fait moins chaud, on a perdu 3-4 degrés tu vois, depuis qu'on est arrivé. C'est pas insupportable, mais il fait quand même bon.
Et la saison de ski s'annonce comment sinon?
Un début juin. On fait du sand ski en fait, nous, tu vois, on skie sur les dunes ici.
Ok.
J'accueille Guillaume Gauthier avec nous, journaliste belge à Sport Magazine. Salut Guillaume.
Salut Nico, salut tout le monde.
Salut
Guillaume.
Merci d'être avec nous dans l'After. Flo et Kevin sont à mes côtés. Dis-nous déjà comment est vécu l'élimination de la Belgique dès la phase de poule.
Il y a une partie de... D'un côté, on s'y attendait, on va dire. Surtout après le premier match contre le Canada qui, malgré la victoire, avait confirmé que c'était certainement pas la Belgique de 2018. Et même pas celle de l'Euro 2021. Donc il y avait un peu un côté fataliste, le fait que cette génération était arrivée un peu à son terme, même si je pense que le match laisse un sentiment un peu de frustration parce que on a vu sur la fin de match que avec les occasions de Lukaku qui avait la place pour gagner contre cette Croatie et prolonger un peu l'histoire, mais de manière générale c'est... On va dire que c'est une demi-surprise. C'est une déception, mais c'est au final qu'une demi-surprise.
Demi-surprise, hein. J'ai noté hein, l'âge de certains joueurs. Aldevered, on le verra plus, je pense, mon cher Guillaume, 33 ans. Vertonghen non plus, 35 ans. Mertens, on l'a pas vu pendant ce mondial, 35 ans. Voilà pour les joueurs crépusculaires de la sélection belge. Witsel, 33 ans. Bon, je pense qu'on verra encore Kevin De Bruyne, hein. Il n'y a pas de doute en sélection.
Bah on espère.
C'est pas sûr.
On sait jamais. Il a pas en tout cas montré une très très grande envie de briller sur les derniers matchs. On a senti beaucoup de frustration chez lui en tout cas sur cette Coupe du Monde. Donc on ne sait jamais quelle pourrait être sa réaction. Mais en tout cas en termes d'âge, s'il y en a certains qui devraient passer la main, même si un gars comme Vertonghen a dit après le match que si jamais on faisait encore appel à lui, il serait toujours là pour répondre présent. Je pense que avec le changement de sélectionneur aussi, ça va être l'occasion de marquer un tournant avec cette génération et de lancer les joueurs qui ont été petit à petit préparés ou pas assez préparés. Ça, c'est un peu selon l'avis de chacun au pays. Les analyses sont assez divergentes là-dessus. Mais ça va être l'occasion d'avoir un nouveau cycle qui va se lancer pour la Belgique, je pense.
Est-ce que la place d'Eden Hazard, après je donne la parole à Flo et Kevin, a été un gros sujet de débat chez toi en Belgique? Il a débuté les deux premiers matchs, il a pas été d'ailleurs ridicule, hein, notamment sur le deuxième match contre le Canada. Il était remplaçant pour ce troisième match.
Je pense qu'il y avait un souci, on va dire, de soit musculaire, soit physique, qu'il était certainement... je pense que ça fait très longtemps qu'Eden Hazard n'avait plus joué 60 minutes plusieurs matchs de suite comme ça, et qu'il a dû en prendre le contre-coup puisque ça s'est fait en l'espace de quelques jours, parce que clairement il n'était pas du tout ridicule. C'était même, je pense, le meilleur joueur offensif de la Belgique sur les deux premières rencontres, ou le moins mauvais, parce que la Belgique a été très décevante offensivement et meilleure défensivement que ce qu'on pensait, mis à part le match contre le Canada, ce qui était un peu le monde à l'envers par rapport à ce qui était attendu avant la compétition, où les craintes étaient surtout sur la défense. Mais donc non, on a un hasard où on se dit, voilà, à ce niveau-là, il pourrait peut-être encore rendre des services. On attendait beaucoup de Leandro Trossard, qui a eu sa chance aujourd'hui à la place d'Hazard, et qui n'a pas été aussi bon que ce qu'on avait pu apercevoir avec Brighton, pas aussi décisif. Et on se dit finalement, est-ce que ce Trossard-là, en pleine force de l'âge, puisque lui a 27 ans, je pense, apportait vraiment plus qu'un Hazard qu'on dit sur le déclin depuis 3 ans.
C'est vrai. Flo, Kevin, quand, tu voulais réagir à la Belgique.
Je pense que notre échange avec Guillaume en dit beaucoup, hein. C'est-à-dire que si en Belgique on se demande si Eden Hazard c'est pas le joueur le plus décisif ou s'il doit pas être titulaire dans cette équipe, c'est forcément que cette équipe elle a été vouée à l'échec. C'est-à-dire que ce parcours il pouvait pas aller beaucoup plus loin que peut-être un huitième de finale si tu dois attendre d'un joueur qui a joué pas plus de, allez, je sais pas combien de minutes exactement, je n'ai pas compté.
Six apparitions en Liga.
Six apparitions en Liga, sans parler l'an dernier, etc. Voilà, pour moi, fallait bâtir cette sélection autour d'un seul homme, autour de Kevin De Bruyne, préparer les théâtres, peut-être les Faes, je sais pas qui, les Trossard, enfin bref, il doit y avoir des jeunes joueurs qui ont quand même de la qualité dans cette sélection belge. Il fallait préparer l'avenir et non pas essayer de finir avec les vieilles gloires pour presque leur rendre un dernier hommage. Je pense qu'il faut savoir couper court dans une sélection, surtout dans un petit pays comme la Belgique. C'est dur, on le sait, mais bon, il faut le faire.
C'est vrai, Flo, on en a fait beaucoup sur la Belgique, hein, en 2016, en 2018 également. C'est là qu'il est le coach réellement.
C'est comme dans une équipe qui, dans ses temps forts, rate ses occasions, tu sais, et qui perd le match à la fin. La Belgique a laissé. C'est pas cette compète là, 2022, où tout le monde savait qu'il y avait une fin de cycle, comme l'a dit Guillaume. On s'y attendait, comme l'ont dit les joueurs eux-mêmes. Moi, j'ai rarement entendu des joueurs dire pendant la compétition en question. Que c'est trop gros pendant la compétition en question, que tes attaquants sont pas assez bons, enfin
donc des tu fois, vois sont gros, trop lents également, c'est incroyable,
donc ouais. En gros, si tu veux, là en gros t'es arrivé au bout du chemin, tout le monde on est dans ce fameux schéma, tu sais, de fin de cycle où tout le monde le sait, mais c'est tellement compliqué avec le même sélectionneur de changer, tu n'as pas encore la certitude de pouvoir le faire, de devoir le faire, que tu attends d'aller dans le mur, de casser ta voiture pour changer, réparer et garder vraiment le nécessaire. C'est le destin de ces équipes-là, sauf que à la différence de celles qui parfois avaient gagné avant d'arriver à cela, comme l'a dit sans concession là, Thibaut Courtois, je lis ses réactions là d'après élimination, lui il dit génération dorée peut-être, mais on n'a rien gagné. Donc il dit dorée, oui, techniquement impressionnant, des beaux parcours, mais rien au bout. Donc tu vas dans le mur, mais en plus avant, même dans tes temps forts, t'as pas gagné la compète qui aurait pu te changer un peu l'histoire de ta sélection. Donc c'est dommage. Je note quand même après un manque d'âme en dehors de tout le reste, de côté fin de cycle, de fatigue,
plus que l'âme,
vieillesse.
Un manque de cohésion.
Ouais, voilà. Et donc ce qu'on disait tout à l'heure sur l'atmosphère au sein de la sélection, sur les inimitiés qui existent dans plein d'équipes, mais qui quand elles ressurgissent à ce point sur le niveau de l'équipe sont pas tolérables. Là, il y a un travail derrière pour celui qui va prendre la suite qui est énorme. Et je pense que s'il y a eu la décision de Martinez de partir aussi vite, c'est que tu vois, c'est dans ces cas-là, tu ne peux pas faire autrement, parce que lui doit savoir que de toute façon, c'est injouable.
Pour partir pour... aussi vite, il était arrivé il y a maintenant 6 ans, je crois.
Non, je parle là après l'élimination de
voilà. C'est juste après.
Annoncé, voilà, c'est clair, c'est net, ouais, c'est fini.
Alors justement, Flo, je me tourne vers toi, Guillaume. Est-ce qu'il est exclu, totalement exclu, que Thierry Henry succède à Roberto Martinez?
Non, je pense que ça va être une des pistes envisagées. En tout cas, Roberto Martinez a dit en conférence de presse après le match que sa décision, elle était déjà prise avant le tournoi. Donc, quel que soit le dénouement du tournoi, qu'il aurait arrêté son aventure à la tête de la Belgique maintenant. Donc voilà, est-ce que l'élimination a précipité les choses? Lui dit que non, on n'est pas obligé de le croire, mais j'ai la sensation que c'est effectivement le cas, qu'il se rendait compte lui-même qu'il était arrivé un peu au bout de l'histoire et qu'il fallait un renouveau. On le sentait dans l'équipe, je veux dire, les gens en Belgique, ils en ont marre de voir Martinez, Alderweireld, Vertonghen, parce que ça fait 6 ans qu'ils voient Martinez et 15 ans qu'ils voient Alderweireld et Vertonghen, qui sont qui sont vieillissants, qui ont pas grand chose à se reprocher sur les deux derniers matchs de la compétition en soi. Mais pour en revenir à la question, oui, je pense que Thierry Henry, ça va sans doute être une des pistes. Thomas Vermaelen, qui a intégré le staff il y a quelques temps, ça peut être une piste aussi. Je pense qu'il y a aussi une volonté au pays de peut-être redonner la chance à un sélectionneur national. On va dire qu'avant Martinez, il y avait souvent des conflits un peu linguistiques entre un coach néerlandophone ou un coach francophone. Mais ici, on arrive avec des joueurs de cette fameuse génération qui ont fait un pas de côté, qui deviennent entraîneurs et qui ont le charisme et l'autorité nationale suffisante pour dépasser un peu ce clivage du fait qu'ils soient flamands ou wallons. Et oui. Donc je pense que pour moi, Vermaelen pourrait être une option, tout comme Thierry Henry en est certainement une. Il a accompagné cette équipe pendant longtemps. Il a certainement une idée derrière la tête en faisant ça. Et il est très apprécié d'une bonne partie du groupe de joueurs. Donc c'est pas à exclure en tout cas.
Merci beaucoup Guillaume, merci d'être venu dans l'after ce soir, 23h54 pour toi également, merci à toi, donc on verra, Thierry Henry, pourquoi pas sélectionneur des Diables Rouges dans les prochaines semaines. Les gars, le Maroc, rapidement un mot quand même, parce que le Maroc va jouer un 8e de finale de Coupe du Monde pour la première fois depuis 1986, ils avaient été battus par l'Allemagne je crois, j'ai un doute, oui, Flo, je me tourne vers toi.
Battu, je sais plus par qui, mais battu.
Allemagne, 1986, il me semble.
On va trouver ça. Mais en tout cas, moi,
les gars,
je suis
quelle impression vous avez fait le Maroc?
Alors, moi, ce que j'aime beaucoup.
C'est bien 1-0 par les RFA.
RFA, ouais. Vas-y. C'est marrant parce que je suis en train de regarder à la télé Romain Higueux qui parle de la Coupe du Monde 86 et qui dit que c'est son meilleur souvenir. Sur le Maroc, c'est une équipe verticale, comme on l'a dit tout à l'heure, qui apporte cette énergie qu'on n'a pas vue chez toutes les équipes, on va dire, les équipes traditionnelles, les places fortes du foot mondial. Pour tout dire, je mets une pièce sur le Maroc contre l'Espagne.
Ouais. Wow. Pourquoi pas? Et moi, j'avais dit avant la Coupe du Monde, on parlait avec Hamza du retour du grand Hakim.
Hamza Ramani,
Hakim Ziyech, qui est de retour et qui est très bon. Donc, tant mieux. Et moi, je disais que pour moi, en tout cas, avec l'absence de Sadio Mané, c'était le Maroc qui avait la meilleure équipe africaine, avec une assise défensive très correcte. Naïf Aguerd, Bono, le gardien, Saïs, etc. Un bon milieu de terrain.
Et des joueurs offensifs. Aussi,
ouais. Des joueurs offensifs intéressants avec Hakim Ziyech, donc, et El Nissiri notamment. Donc ouais, non, ouais. Franchement, c'est une équipe qui respire vraiment la joie de vivre. On parlait de cohésion, de manque de cohésion en parlant de la Belgique, mais le Maroc, on sent qu'ils sont vraiment soudés depuis le départ de Vaïd. On sent que l'arrivée ou le retour plutôt de Ziyech et de Mazraoui notamment, ils veulent montrer qu'ils peuvent et qu'ils n'ont pas fait partir l'entraîneur pour rien. Et donc, je pense qu'ils ont tout un pays derrière eux et qu'ils peuvent faire vraiment un beau parcours.
Voilà pour le Maroc, les gars. L'affiche, le Maroc, on en parlera dans la libre antenne dans un instant avec Nico Villas, Maroc-Espagne, mardi à 16h. Bonsoir, Nicolas Villas. La libre antenne prend le relais. Ça fait longtemps, Nico.
Ce que j'allais te dire, et alors, tu commences à me manquer, toi, là.
Bah, c'est pareil. Je pense à toi tous les soirs, tous les matins, la journée.
Et pourquoi t'envoies pas des photos, alors, quand tu penses à moi?
Parce que je ne veux pas te faire du mal, mon cher Nico.
Non, ça me ferait du bien, je t'assure. Vous me manquez, les mecs. Ça commence à faire long. Hein. On vous attend au 32-16. Il y a Max et Adri qui vous attendent au standard, la libre antenne. Vous connaissez le principe. On est là tous les soirs pendant la Coupe du Monde jusqu'à 1h du mat. 32-16, tu viens parler de ce que tu veux. Tu as donné un petit avant-goût du programme qui n'existe pas puisque tu parles de ce que tu veux. Mais pourquoi pas des supporters du Maroc, des supporters de la Belgique, un peu vénère, du Japon aussi. Il y en a quelques-uns, de l'Espagne, de qui tu veux, de l'Allemagne. Oh là là, l'Allemagne. Et on a vécu une soirée encore de feu de Dieu. Voilà, ça y est.
Nico, avant de te donner la main, il faut que je félicite Guillaume qui a gagné le maillot de la National Mannschaft avec Foot Corner.
Ah ouais, en plus, c'est
maillot collector ce soir, c'est magnifique. Oui. On le reverra plus sur une pelouse en Coupe du Monde. Merci Kevin, merci Flo, Nico, c'est à toi la libre antenne sur RMC.